se gêner sur Europe 1.
15h30, 18h, Laurent Ruquier.
Bienvenue sur Europe 1, bien entendu avec aujourd'hui Christine Bravo, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, et je sais que vous l'attendiez lui aussi. Fabrice Eboué est revenu hier, mais celui qui revient aujourd'hui, c'est Pierre Bénichou. Soyez pas jalouse, Christine. Soyez pas jalouse. Non, mais fais bien que c'est
celui
la vedette.
Celui qui revient aujourd'hui, moi aussi, je reviens
mais
aujourd'hui.
Oui, mais tu vas pas comparer.
C'est ça, il a raison, Pierre. C'est quand même, alors, là, c'est quand même la vedette, Pierre Bénichou.
Oh, c'est vrai.
Je sais pas combien il va me demander à la fin de l'émission, ça va être cher. Hein.
D'ailleurs, tiens, regardez, Loïc est d'accord avec moi. Bonjour, Loïc.
Bonjour, Laurent.
Et d'ailleurs, vous avez même pensé à Pierre Bénichou pendant les fêtes de fin d'année en regardant la télévision, je crois. C'était dimanche soir.
Alors, vous avez dit que c'était une vedette, mais je dirais plutôt que c'était la vedette parce que on va tous se rendre compte que c'est un imposteur, puisqu'en fait, on peut remarquer dans le film de Fortuna avec Bourvil, que Bourvil chante le tube de Bénichou, la trompette.
Sans déconner.
Non.
Et oui.
Et
oui,
moi, je veux dire que j'ai failli le regarder, le Fortuna.
C'est pas possible. Voilà.
Parce qu'il passe toujours des nouveaux films pendant les fêtes de fin d'année.
Non, mais là c'est pas ce qu'on appelle un vieux film. C'est un film tellement ancien.
Un classique.
C'est kitsch, quoi.
Et il chante la trompette Bourvil dans Fortuna.
Voilà, dans Fortuna.
Énorme. Mais est-ce qu'il a des variantes ou pas?
Non.
C'est comment les paroles déjà?
Ah, dis monsieur, un jour moins en.
Attendez, je vais essayer de vous le faire. Ah, dis monsieur, au mois de an. La trompette.
Oui, je le fais bien.
J'essaie de vous faire plaisir,
non, mais
Pierre.
Bien sûr, mais je vous adore. Moi, j'aime tout le monde quand je reviens.
Belle année qui commence. Hein.
Vous avez passé de bonnes fêtes, Pierre Bénichou?
Oh, j'ai passé des fêtes festives.
Et cette soirée célibataire, tu l'as faite ou pas?
Ah oui, au fait.
Du 24 décembre que tu devais organiser.
Ah oui.
Et alors?
Que des célibataires, j'étais le seul mec, dis donc.
Merde, dur.
Elles ne sont pas emmerdées. Mais... Surtout les Gouines.
Enfin... Oh.
Oh. Quelle horreur!
Ça c'est fait. Vous voyez, rien n'a changé, Fabrice. Hein.
Mais
content de retrouver Pierre, Fabrice.
Ah bah bien sûr, ouais. Je sais qu'il a profité pour dire certaines choses durant mon absence.
Mais oui. Qu'est-ce qu'il a dit pendant votre absence?
J'ai entendu parler depuis Cuba d'une affaire Garlin. Où
depuis
il y avait...
Cuba?
Oui. Où il y avait un défenseur.
Il était à Cuba avec Dieudonné. ils ont bien aimé l'affaire Garlin. Je disais simplement qu'il
y avait. Oh non, pas ça. Au revoir en tout cas.
Loïc.
Oh, tu vois que c'est faux de dire qu'ils foutent rien, ils écoutent la radio.
Au téléphone, Jean. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Alors
bonjour.
Là, Jean voudrait se plaindre parce qu'il n'arrive pas à capter Europe 1. C'est bien ça?
Exactement.
Eh bien, pourtant c'est bizarre ça, vous habitez où?
Attendez,
je crois que le téléphone ne passe pas non plus, manifestement.
Il y a des gros soucis, Jean.
C'est-à-dire que s'il ne sait pas où il habite, c'est dur de trouver la fréquence aussi, quoi.
Vous habitez où, Jean?
Gurset-Châtel, dans le sud, Seine-et-Marne.
En Seine-et-Marne. Et Europe 1 passe pas en Seine-et-Marne?
Non. En FM, non.
En FM, non. Comment ça se fait, ça, alors?
Ah bah c'est de la faute du CSA peut-être.
Mais vous avez bien un ordinateur, vous pouvez nous écouter sur un ordinateur, vous savez, europe1.fr.
Oui, mais quand je fais mettons de la cuisine, une tarte dans la cuisine,
c'est très précis.
C'est drôle.
Ah oui, évidemment. Le mec il capte pas la radio.
Je crois que quand tu fais un cassoulet ça marche.
Pourquoi vous essayez pas les grandes ondes?
Justement, c'est ce que j'ai écrit dans le mail que j'ai envoyé à Laurent pour lui dire que quand je suis par exemple dans mon atelier un vieux récepteur, on va dire, j'ai encore les grandes ondes dessus.
Jean, vous lui avez dit tout ça dans votre lettre à Laurent?
Oui.
Ouais, Jean, c'est pas nous qu'il faut appeler, c'est Darty dans ces cas-là. Hein. Ça n'a rien à voir.
Non, et Jean, il y a des tas de moyens modernes pour écouter Europe 1, vous savez, aujourd'hui quand même.
Ouais, enfin le mec, il a un téléphone qui marche pas, un récepteur qui capte pas, comment tu veux qu'il nous écoute?
C'est pas le mec, c'est Jean.
Pardon, Jean.
Jean qui nous écoute régulièrement.
Il nous entend pas, c'est pas grave, je peux dire le mec.
Vous avez des chouchous, Jean? Ok, merci Jean. On vous embrasse et on vous remercie pour votre appel. Alors, vous savez que les pros et les anti-Maria Carey continuent à se déchirer à travers les mails qu'on nous envoie. Parce que hier, j'ai voulu m'excuser auprès des fans de Maria Carey. On a diffusé un titre de Maria Carey. Alors là, maintenant, il y a ceux qui n'aiment pas qui envoient des mails en disant « Ouais, fallait pas nous imposer cette grosse poufiasse. On la déteste. N'écoutez pas les auditeurs qui disent que c'est pas bien de se moquer d'elle. Vous avez raison de vous moquer de tout le monde. C'est que vraiment, ils n'ont rien compris à votre émission, dit un auditeur. » Bah oui, c'est un peu vrai, en fait, hein, qu'on est un peu là pour se moquer de tout, hein, Pierre.
Sauf de Maria Carey.
Ah, c'est vrai.
Ah oui, moi j'adore Maria Carey.
Vous voyez qui c'est?
Bah oui.
Qu'est-ce qu'elle chante?
Une chanteuse, hein. Elle chante des chansons.
Et tu connais The Trumpet de Maria Carey ou pas, Pierre?
Ceux qui se moquent de vous parce que vous vous moquez de Maria Carey n'ont rien compris à votre émission. Non, franchement, c'est une star tiédasse, manipulatrice et névrosée.
Oh non!
Il y a de quoi en rire. Je ne savais même pas qu'elle existait encore, nous dit Christelle.
Oh, mais qu'est-ce qui va rester pour Emilian Farmer, alors?
Et votre émission est une émission de divertissement. Pourquoi certains auditeurs prennent-ils tout au pied de la lettre?
Ouais.
Voilà. D'ailleurs, on était passé pas loin du lynchage de Christine Bravo à Metz après ce qu'elle avait dit.
Oh merde, à pas loin à côté du lynchage.
Ouais,
oh
alors merde. Franchement, c'est que vos auditeurs ne comprennent pas le principe de votre émission. Continuez, ne changez rien, je vous adore, c'est signé Christelle. Ça c'est gentil quand même. Oui, elle a raison, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce que vous cherchez?
Non, ça y est, je l'ai trouvé, ça y est.
Il cherche des femmes.
Je l'ai trouvé.
Qui?
Bah, la personne.
Il cherche des femmes.
Il y a qu'une personne que je parle dans le public toujours.
Ah oui, vous choisissez une personne toujours.
Elle est là. Aujourd'hui, elle est là et elle a un pull. Ouais. Elle a un pull comme on disait avant.
Merde, c'est tombé sur vous, mademoiselle.
Elle a un pull un peu jacquard. C'est comme ça, on disait c'est jacquard, ça.
Putain.
Oh, c'est votre maman qui l'a choisi ou vous-même?
La vérité! La vérité, il appartenait à sa grand-mère.
C'est ça la vérité, que tu te moques l'accent? Pourquoi c'est mieux l'accent de Rouen que l'accent de Rouen?
Alors, il paraît
c'est
qu'on...
ça que j'ai aimé à Cuba, il n'y a pas d'arabe et ça fait du bien.
quelle classe quand même. Quelle classe quand même. Il m'avait un peu déstabilisé en me faisant passer pour un raciste il y a 2 minutes. Et là il vient de me tendre la main en disant oh, mais non, c'était pour rire.
Oui.
Dis-moi, c'est combien mon boulot à la passe là?
Alors c'est justement dans le public d'autres personnes à accent, j'imagine, puisque je crois que nous avons des Québécois. C'est Damien qui nous a envoyé ce message. Laurent, j'aimerais signaler la présence dans votre studio aujourd'hui de 2 aficionados de l'émission qui viennent de Montréal.
C'est là-bas.
Zeynep, alors c'est qui Zeynep?
C'est les plus roses là-bas.
Voilà, Zeynep et Sébastien. Qui est Sébastien? C'est vous, monsieur. Et il paraît que vous imitez Ségolène Royal, nous dit notre auditeur. C'est vrai? Venez au micro voir si vraiment vous imitez Ségolène. C'est un copain à vous, j'imagine, Damien, qui nous a envoyé ce mail. Ah, c'est plus un copain à vous maintenant. Faites-nous Ségolène Royal, on va voir si vous y arrivez vraiment. Hein. Nous, on est là pour vérifier. Hein.
Ça devient bizarre cette émission.
Allez-y, alors faites Ségolène Royal, allez-y, monsieur.
Bah, c'est plus à le Nicolas Canteloup, en fait.
Allez-y,
vas-y.
Jamais, on aura peut-être besoin de le remplacer un jour.
Je peux vous faire l'accent québécois plutôt.
Ah non, mais ça,
non, Ségolène.
Oui, bonjour.
Ah ouais.
Très bien.
Non, je viens de me taper la honte. De...
Ah bah vous.
Ça fait pas, ça nous arrive.
Vous adresserez à votre pote Sébastien. C'est lui, c'est de sa faute.
Non, ça c'est Damien. Sébastien, c'est moi.
Ah vous, Sébastien.
Oui.
Oh bah ça va. Je suis pas censé vous connaître encore très bien. On fait à peine connaissance.
Non, mais on va
quoi?
On va continuer à faire connaissance.
On va te laisser l'adresse d'Incroyable Talent.
Bon, on vous souhaite un bon retour au Québec, en tout cas.
Et merci d'être venu.
Et Zeynep, elle imite personne, Zeynep? Non.
Elle parle pas français.
Elle parle pas français, en plus.
Et elle rigole bêtement l'émission depuis tout à l'heure.
Ah, ils sont vraiment cons, ces Québécois.
Allez, on continue à s'amuser sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous écoutez, on va gêner. Je vous rappelle l'adresse de l'émission, c'est ruquier.europe1.fr pour apporter vos commentaires, pour envoyer vos meilleures blagues, mais également pour élire votre chroniqueur préféré.
En Encore un mail pour Pierre Bénichoux. Je suis désolé, Christine, c'est Anne qui nous l'envoie. Je me permets de prendre contact auprès de vous car j'ai pendant des jours et des jours cherché à Bordeaux, ma ville, pour en offrir un à mon frère pour Noël, un pyjaveste, et je n'ai jamais réussi à en trouver sur Bordeaux. Pouvez-vous me dire où je pourrais enfin acheter un pyjaveste ? C'est signé une fidèle auditrice, Anne.
Moi, je connaissais un endroit à Paris, aux trois quartiers, où on en vendait. Je crains qu'on n'en vende plus, mais mon espoir quelque part, mon
c'est
espoir
Céline Dion, mon espoir est rené.
Mon espoir est rené. Parce que
ça c'est la blague.
Lorette,
c'est pour Lorette, Sébastien que je fais la blague.
Je vous en prie. Lorette m'avait dit qu'un fabricant de pyjaveste avait écrit pour m'offrir non seulement ses services, mais un présent d'un pyjaveste. J'attends toujours.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le mail d'Anne, puis vous lui répondrez directement, hors antenne.
J'arrête pas, j'en ai déjà 12.
J'ai reçu le pavé Coluche comme cadeau de Noël, et je dois avouer que notre Pedro National, me dit Thomas, roi de la castagne orale, m'a ému, en effet. Il signe une préface bouleversante de vérité qui m'a fait apprendre des choses que j'ignorais à propos de Coluche. Merci à Monsieur Bénichoux pour ce cadeau. Enfin, c'est pas vous qui lui avez offert le livre.
En vente dans toutes les bonnes librairies, aux éditions du Cherche Midi, qui s'appelle Le Pavé Coluche. Le bouquin, il y a 800 pages moyennes et 3 pages de moi, une préface, qui sont vraiment formidables.
Une petite blague courte envoyée par Damien. Titoff, Caroline Diamant et Christine Bravo sont dans un bateau. Le bateau coule. Voilà.
C'est trop drôle.
Elle est pas mal.
Hein? C'est très drôle, ça.
Eh bien,
c'est tout à fait, d'ailleurs, de l'humour de Coluche. C'est quand il disait...
Un pigeon.
Quelle différence y a-t-il entre un bâton ?
Oui, oui. C'est l'histoire d'un père qui est assis à table avec ses 3 fistons et tout le monde mange de la soupe au vermicelle. Le premier fils dit « Papa, papa, t'as un vermicelle collé sur la gueule !» Le père se lève et donne une grande gifle en pleine figure. Ah, le second fils s'exclame « Ah, il est vraiment chié, le vieux !» Alors, le père se retourne et... Il met aussi une gifle magistrale. Et en retournant à sa place, le père voit son 3e fils qui essaie de se protéger avec ses mains. Mais n'aie pas peur comme ça, voyons, t'as rien dit, je te ferai rien. Et le petit répond, ouais, mais on sait jamais, t'es tellement con. Non, elle est pas mal.
Ouais.
Et puis, alors, je voudrais faire une précision, me dit Christine, mais c'est pas Christine Bravo, c'est Christine, une auditrice qui manifestement était à Miami pendant les fêtes de fin d'année, puisqu'elle a croisé... Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy ?
Rien, je
vous
sens
sentez visé d'un
ouais,
coup.
Ouais.
Hein.
J'ai vu qu'autour de la table, il y a que moi qui étais à Miami pendant les fêtes.
Elle vous a croisé dans le hall de l'hôtel W, c'est ça, à Miami.
W,
voilà, le jour de Noël, et vous lui avez lancé un regard langoureux, dit Christine. Alors un mec qui est accompagné d'une belle nana, parce qu'il était accompagné d'une belle nana, qui en plus en lorgne une autre, moi je dis, il peut pas être vraiment pédé.
Je suis assez d'accord avec Christine.
Voilà ce que dit Christine. Pourtant, vous faites partie du... du classement,
non.
Et je voudrais appeler tous nos auditeurs à voter pour vous.
C'est pas vrai.
Il y a un classement lancé par le magazine Têtu.
Non. Il fallait bien que ça arrive un jour.
Qui vous a fait craquer à la télé en 2010?
Non.
Et alors, vous avez parmi les mecs beaux proposés pour l'année 2000... Vous n'y êtes pas, hein, Pierre Bénichoux, je vous le dis. Je voudrais pas que vous soyez déçus, je préfère vous dire à l'avance. Hein.
Sois pas déçu.
Alors, on vous
jamais dans les classements.
Y a qui?
On vous propose Stéphane Plaza, c'est l'animateur
de... Stéphane Plaza, très connu.
Ah oui.
Moi, je vote pas pour lui. Julien Bugier. Vous avez une concurrence, Michel Hack, journaliste à iTélé. Frédéric Lopez, que tout le monde connaît. Anissé Mbida, journaliste à BFM TV. Jérémy Michalak. Regardez.
Non, lis le texte.
Belle photo, en plus.
Le texte est intéressant.
12 euphémismes que de dire que l'on est sensible, mais alors vraiment beaucoup à ses yeux bleus et son poil rebelle.
C'est le poil rebelle qui est intéressant.
Jérémy, c'est une voix, un physique et un humour à tomber.
C'est tout ça.
Ils ont Joujou, pas mélangé avec le rugbyman, là.
Joujou fait fantasmer les hommes.
Non, c'est pas écrit, ça.
Ah, si, c'est écrit.
Non, c'est pas écrit.
Alors, je sais pas où est-ce qu'il faut voter pour vous, parce que.
J'en sais rien.
Il y a de la concurrence. Il y a Ali Badou, l'animateur de Canal+, il y a Stéphane Rothenberg, il y a Victor Robert, Cyril Ferraud, le petit animateur de slam sur enfin bon,
Victor Robert, il est beau alors.
Ah oui. Ah,
Victor Robert, moi qui suis pas de la qui flotte, hein, je peux te dire un truc.
Ouais.
Je suis pas de la jaquette qui flotte moi, mais le Victor Robert, il est troublant.
Moi, j'hésite entre Joujou et Eddy Murtet, qui est un animateur de Franço.
Vote pour lui.
Non, ça nous ferait marrer que vous gagniez. Il y a Christophe Beaugrand aussi
il mérite beaucoup plus.
Christophe Beaugrand, mais moi je pense qu'il faut que vous votiez tous pour Joujou.
Appel
aux auditeurs d'Europe 1, c'est sur le site de Tétu.
Mais qu'est-ce qu'on gagne?
Fête de Jérémy Michalak, qu'on se marre quoi.
Mais qu'est-ce qu'on gagne?
Le Joujou sexuel de l'année 2010. Vous êtes d'accord, Stevie?
Ah bah, totalement d'accord. Je sens qu'il va y avoir un deuxième Laurent Gbagbo qui va dire non, je vais pas gagner.
C'est assez possible.
Pierre.
Non, c'est quand même extraordinaire quoi. C'est Joujou le meuble plus sexy de l'année. Ils bandent pas comme nous ces gens-là.
On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1.
En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h.
Et à l'occasion du Festival du film et de comédie de l'Alpe d'Huez, Europe 1 vous propose de gagner un superbe séjour pour deux personnes. À l'Alpe d'Huez évidemment, du 18 au 23 janvier, hébergement, location, forfait de ski et transport inclus. Vous pourrez également assister aux émissions de Laurent Ruquier les 20 et 21 janvier, ainsi qu'assister à la cérémonie d'ouverture et aux projections de ce festival. Alors pour cela, inscrivez-vous au 3921 ou par SMS en envoyant le mot Europe 1 au 7-21-21. Bon chousse et surtout bonne chance à tous.
Europe 1.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bonne année, Paul Vermus.
Bonne année, Laurent. Bonne année à toute l'équipe.
On est content de vous retrouver, vous savez, Paul. D'autant qu'on a des questions à vous poser. Il s'est passé tellement de choses dans l'actualité. D'abord, Paul Naref, papa, on l'a entendu hier sur Europe 1. Et on connaît toujours pas le prénom du bébé. C'est quand même bizarre. Quand même. Un mec qui a quand même eu 66 ans pour réfléchir au prénom du gosse. et qu'il a toujours pas trouvé. Mais peut-être que vous l'avez, le prénom. Hein.
Bon, alors, vous me donnez une heure pour le trouver. Mais s'il lui-même dit qu'il a pas trouvé, comment voulez-vous que moi je trouve?
Je pense qu'il a le prénom, mais que pour l'instant il le réserve comme un scoop pour, je sais pas, un média. Peut-être vous allez me dire lequel tout à l'heure.
J'ai tâché de le joindre à Los Angeles, mais je vais le réveiller.
Alors ça serait bien. Mais il y a une deuxième enquête là, une enquête plus approfondie que je vais vous demander, cher Paul. Et je veux dire, c'est pas dans les journaux que j'ai trouvé cette enquête. C'est une réflexion personnelle que j'ai eue en regardant un peu la télévision là pendant les fêtes. Et j'ai quasiment pas vu une émission, pas un animateur qui n'ait pas présenté le fameux sac à sapin au profit de Handicap International. Et là, je me suis posé une question, je me suis dit, mais comment ils font et comment ils réussissent à avoir un tel entrisme auprès de tous les animateurs bien télé, sûr. Alors qu'il y en a des associations au profit desquelles on peut quand même verser des dons. Alors d'abord, ce sac à sapin, est-ce que c'est vraiment 100% au profit de Handicap International?
C'est cher, c'est 5 euros.
Moi, il y a 1,70€ reversé.
Ça m'a paru tellement omniprésent que je voudrais avoir un peu plus de transparence autour de ça.
Et moi, je voudrais savoir pourquoi. Parce qu'il coûte, il coûte au moins, je crois que je l'ai payé 5 euros, autour de 5 euros. Donc, il y a combien tu dis, Handicap?
1,70€
Handicap. Ça veut dire quand même que pour un sac poubelle, parce que c'est un sac poubelle, il y a quelqu'un qui se met 3 ou 4 euros dans les fouilles.
Non, il y a aussi 2 euros pour les fabricants de mines aussi, je crois.
mais c'est peut-être du plastique biodégradable.
On veut savoir exactement où va l'argent et comment ça se fait que tous les animateurs présentent ce sac à sapin. Ça, alors là, moi, je voudrais savoir. Voilà.
En fait, dans votre question, vous êtes extrêmement sceptique sur cette.
Je suis pas sceptique. Je suis pas sceptique, j'aime être informé.
Et c'est cher.
Je suis là pour vous informer.
Et quand quelque chose est omniprésent, j'ai parfois envie de savoir.
C'est une bonne question.
Pourquoi? Il y a des tas d'autres causes, des tas d'autres choses qu'on pourrait montrer à l'écran.
Ouais, mais ils sont forts, les handicapés. Hein.
Non, mais j'ai aucun soupçon. Je veux juste savoir, juste être informé. C'est tout, Paul Vermus. D'accord?
Je suis payé pour ça et je suis entièrement d'accord.
Puis alors, il y a une troisième question, là, peut-être tout aussi surprenante. C'est, on l'a appris dans la presse, Édouard Baird qui a été choisi pour incarner Astérix au cinéma. Alors là, on trouve Édouard Baird excellent comédien, très amusant, très drôle, tout. Mais alors, Je sais pas, ça me paraît assez bizarre.
Tu trouves qu'il est éloigné du personnage de
Tex? Bah, je me demande même si la connerie qu'il avait lancée il y a quelques mois de dire je vais faire jouer Jean Rochefort dans le rôle de Madame Bettencourt, c'était pas une connerie pour nous faire passer le fait que lui il allait jouer Astérix. Parce que vraiment.
Mais en quoi Astérix c'est tellement différent physiquement de Noir
Bert? C'est pas tellement physique.
Vous confondez avec Obélisk. Astérix, c'est quelqu'un de...
Astérix, c'est un petit blond, gaulois,
c'est Michalak,
plutôt Franchouillard.
Franchouillard,
c'est pas Édouard Baird. Édouard Baird, c'est plutôt un dandy, mondain, voilà.
Ça m'étonne, quoi.
Vous voulez savoir quoi dans cette affaire, Laurent?
Bah, c'est-à-dire que...
Est-ce qu'ils vont remplacer la potion magique par la coke dans le prochain Astérix?
Non, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi il a été choisi, lui, et qui l'a choisi. C'est assez curieux, quand même, comme choix.
Dites-donc, Laurent.
Tant qu'on nous parlait pas mal, par
Laurent
exemple.
Deutsch.
Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, il fait plus Franchouillard. Voilà,
c'est Astérix.
Avec un nom pareil, Franchouillard, Deutsch.
C'est vrai. Non, mais enfin, franchement, Édouard Baird, qui sera sûrement très bon parce qu'il est drôle, il est bon, tout ça, on est d'accord là-dessus, mais quand même, physiquement, il n'incarne pas, a priori, Astérix. Enfin, je sais pas, je me trompe.
Non.
Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
C'est un dandy, il fait dandy parisien.
Voilà, dandy parisien. Il fait pas gaulois.
Je ne suis pas du tout de votre avis dans la mesure où il peut tout à fait jouer ça. C'est pas comme s'il jouait Obélisk, justement. On disait, il faut un mec qui pèse 100 kilos, tout ça. Non, c'est un ce qu'on appelle un jeune premier comique, tu vois, c'est
mais
ça
non.
Un peu.
Mais non, Michalak serait meilleur dans le rôle d'Astérix.
Exactement, voilà.
Et peut-être même moins cher.
Michalak serait meilleur dans tous les rôles.
Stevix serait très bien, par exemple.
Dans le barde.
D'ailleurs, Pierre, pour jouer Obélisk, t'as pas une idée, toi?
Cherche quelqu'un.
À moins que ce soit pour Ashkenonix.
Non, c'est l'eunuque de Cléopâtre.
Ashkenonix, c'est pas gentil.
Il veut me taper avec sa chaussure. Ah non, pas sur mon beau truc.
Il va prendre un coup de babouche là.
Non, mais écoutez. Mais ils sont cons dans cette émission, c'est pas possible alors. Paul, on veut les résultats évidemment à toutes ces questions d'ici à la fin de l'émission.
Ouais, bah non, mais ne vous inquiétez pas, maintenant j'ai été formé à bonne école, je sais faire.
Et puis bonne année encore.
Vous avez et passé, bonne année à tous.
Vous avez passé de bonnes fêtes, vous?
Bon, très calmos, quoi. Je voulais aller chez moi, mais il y avait trop de neige. Donc
calmos, vous dites calmos, vous, maintenant, alors.
Bah oui, je tâche de faire jeune les années passant. Dites donc, quand vous allez à Cuba, vous, Laurent.
Oui.
Vous m'offrez des cigares,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai.
Vous le faites régulièrement,
oui,
ça.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez me rapporter quelque chose?
Quand vous allez à Cuba, vous m'offrez des cigares, vous le faites régulièrement. Je voudrais juste préciser, j'y suis allé une fois.
Demandez à Eboué s'il m'en a rapporté quelques-uns.
Eh ben, passe à la maison, il y en a un. Il est assez gros, il t'attend.
Non.
Voilà pourquoi j'aime pas rire avec ces gens-là. Voilà.
Je me dis, ça m'avait manqué.
En plus, je sais que c'est du mytho.
L'autre, il demande ça pour vérifier.
Le premier degré.
Le gros mytho.
Premier degré.
Ça se verrait quand même.
C'est chirurgical dans la tête de Stevie.
Quoi. Ouais, sûr, il te voit,
mais moi, j'ai un compas dans l'œil. T'as pas idée.
On sait pas ce que t'as dans
l'œil. J'ai un compas dans l'œil. Oh non, c'est horrible.
Oh là là.
Bon bah Paul,
il est temps de se dire au revoir et à tout à l'heure. Hein.
D'autant qu'il est quasi 16h, on se retrouve dans un instant avec le premier challenge auditeur.
On va se gêner.
Laurent Ruquier et toute sa bande
jusqu'à 18h sur Europe 1.
Ensemble depuis 15h30, encore 2 heures à passer en compagnie de Christine Bravo, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Pierre Bénichoux. Bonjour Ingrid, bonjour Philippe.
Bonjour l'équipe.
Alors je devrais dire hello Ingrid.
Hello.
Hello, hi.
Hello Laurent.
How do you do? Vous êtes à Caterham en Angleterre.
C'est correct, c'est exact.
Parfait, ça se trouve où, Caterham?
C'est dans le Surrey, c'est pas très loin de Londres, c'est à 30 km de Londres.
Ah yes, near London.
Voilà, exact.
Qu'est-ce qu'il y a, Pierre?
Tu vois que c'est bilingue maintenant, c'est bien.
Comme juste, en plus.
Ben oui, Ingrid, vous faites quoi dans la vie? Pourquoi vous êtes là-bas? Peut-être vous êtes anglaise, d'ailleurs.
Non, du tout. En fait, à l'origine, je suis martiniquaise, j'ai fait mes études à Paris, j'ai vécu 11 ans à Paris, j'ai rencontré mon mari, qui est bourguignon. Et puis un jour, on a décidé de partir en Angleterre.
Très bien.
Je travaille dans le gaz naturel.
Dans le gaz naturel, ouais. Vous travaillez. Très
Allons,
bien. Un peu comme Elisabeth Buffet.
À peu près.
Philippe est à Toulon, lui. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour.
Oh là, il est très discret, Philippe. Un peu timide, même, voir.
Un peu, oui.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe, à Toulon ?
Je suis documentaliste.
Documentaliste. Ah. Documentaliste dans quel endroit ? Dans un établissement scolaire ?
Plutôt dans une administration.
Dans une
D'accord,
administration.
D'accord, mais quel genre d'administration, plutôt, Philippe, dis-nous ?
Ben, à Toulon.
Ça a l'air
top
secret.
D'accord, mais
Marine
c'est...
nationale.
C'est plutôt la
marine. Ah, la marine nationale !
D'accord. Et tu aimes les bateaux ?
Comment il est sur le pont. La marine nationale, qu'est-ce qui.
Ah, bah lui, les ébénistes et les marins.
Ah, ouais, bah oui, ça me vient, j'avoue.
Philippe.
Les ébénistes, c'était hier, oui.
Voilà, exactement. Vous nous écoutez tous les jours, Philippe, c'est très gentil. Ingrid, Philippe, vous allez peut-être gagner une semaine de ski et de détente à Valoire. 150 km de piste, Pierre, à Valoire.
Ah, bah c'est tout.
Oui. L'hébergement est en appartement, forfait remontée mécanique, domaine skiable de Valoire offert pendant 6 jours. Voilà ce que vous offre Europe 1 et la station de ski Village de Charme de Savoie au pied du col du Galibier, je le rappelle. C'est prêt?
Ouais.
Tu serais content de gagner ce cadeau, Philippe?
Ah oui, oui, bien sûr.
D'accord, bien entendu, alors on peut jouer.
Vous êtes imitateur maintenant, vous, Michel.
Ouais, Philippe seulement, ouais.
Depuis qu'il est sélectionné par Tétu
ouais,
pour.
Oui.
Quel est le rapport? Votez pour lui, hein, n'oubliez pas.
C'est ça, on va faire un jingle.
On va faire un jingle.
Voici la question, attention, Ingrid et Philippe. Ils ont 173 ans à eux deux et on leur consacre de nombreuses pages dans la presse en ce moment. De qui s'agit-il ?
Pierre et Claude ?
Non, pas Pierre Bénichou et Claude Sarrote.
173 ans à
ils
eux
ont
deux.
60, ils 100. Ont 173 ans à eux deux et on leur consacre de nombreuses pages dans ils la presse en ce moment. De qui s'agit-il ?
Ah, ce sont deux avocats.
Qui ?
C'est Roland Dumas et comment il s'appelle l'autre qui est allé en Côte d'Ivoire ? Roland Dumas et Vergès.
Ouais. Bonne réponse, wow. Bravo Ingrid. Roland Dumas et Jacques Vergès, effectivement, 173 ans à eux deux, puisque
tordu,
l'un
question.
A 88 ans, l'autre, 4, pourquoi tordu ?
Bah dis donc, fallait y penser.
Bah, il y a pensé.
Eh bah, j'y ai pensé, d'abord parce que le titre de Libé aujourd'hui, c'est quand même Vergès et Dumas, vieux grigou de Gbagbo, puisque les deux avocats ont fait le déplacement là-bas jusqu'à Abidjan pour soutenir celui qui ne veut pas quitter la présidence du pays, la Côte d'Ivoire, et il se trouve...
88 ans, Dumas, je le savais, mais je savais pas que l'ordure avait 85 ans.
Eh bah oui, à eux deux, ça fait 173, hein, j'ai fait la petite addition moi-même, 88 plus 85, 173, et ça permet à Ingrid de partir à Valoire.
Ouais.
Bravo, ça a été rapide. Hein.
Vous allez revenir d'Angleterre
Oui. Je reviens régulièrement, en fait.
Bon, bah, très bien. Bah, vous pourrez passer une semaine en Savoie. Et sur la Côte d'Ivoire, vous avez un commentaire à faire, peut-être sur ces deux avocats.
Je m'abstiendrai.
Pourquoi ? Vous pensez quoi, vous, Ingrid ?
Je ne sais pas quoi en penser, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils soutiennent Gbagbo.
Parce qu'ils sont bien payés pour.
probablement. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, je préfère ne pas donner vraiment d'opinion.
Vous, Fabrice Eboué, vous avez un avis là-dessus ?
C'est l'Afrique, c'est vrai, à chaque fois. Mais c'est totalement ridicule, ce débat, de toute façon.
Pourquoi ?
Mais ça ne peut pas exister, un vote régulier en Afrique.
Ah oui.
Il y a pas de recensement, déjà. Je vous jure que c'est vrai, ce que je vais vous dire. J'ai mon cousin au Cameroun, il s'appelle... Michael Pierre André.
Ouais.
Il a trois cartes d'électeurs.
Ouais.
Une à Michael Eboué, une à Pierre Eboué, une à André Eboué. Et ça se passe comme ça dans tous les pays d'Afrique. Donc la démocratie, je ne sais pas qui a gagné. On ne saura jamais qui a vraiment
honteux,
gagné.
C'est honteux, ce propos d'un racisme épouvantable.
C'est
dégoûtant. Il y a de la démocratie là-bas.
Il n'y a pas de recensement. On va au fin fond de la Côte d'Ivoire, tu ne sais pas combien ils sont du tout, tu ne peux pas dire qu'il y a un vote démocratique.
Christine, vous êtes pour lequel, vous, Ouattara ou Gbagbo, alors?
Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Eboué. Il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de on ne peut pas savoir. Donc, l'autre, évidemment, il s'accroche, il a raison de s'accrocher, et puis, est-ce qu'il n'a pas gagné? Non, mais franchement.
Mais non, mais on ne sait pas,
on sait pas qui a gagné.
Il faut se dire que c'est vrai que depuis Oufouet Boigny et Senghor, dès qu'il y a un chef d'État en Afrique, on a envie que ça change.
Oui.
Étant donné que la corruption est absolument atroce.
Oui.
Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, si l'autre, dont j'ai oublié le nom, le rival de Gbagbo gagne, ça va être une telle déception pour tous les gens qui étaient contre Gbagbo, parce que, évidemment, ça va être des massacres dans l'autre sens. qu'on ne peut rien souhaiter. On peut souhaiter qu'une chose, c'est que
c'est de rétablir la c'est que tu trouves la fin de ta phrase.
Non. On peut souhaiter qu'une chose.
C'est de rétablir la colonisation. Ah bravo Pierre. Espèce d'ordure. Bah.
Non, c'est que certains retournent dans leur pays.
Stevie, vous c'est le cas. Alors, Stevie, il a l'habitude de trancher. Lui, voilà, c'est quelqu'un. Voilà. Il ose affirmer. C'est,
ah, il tranche.
Tranche, Stevie. Alors, mais... vous êtes plutôt Gbagbo ou Ouattara, vous alors?
Bah, Ouattara. Ah, parce que c'est apparemment le président élu. Apparemment, donc. Mais oui, mais là vous mettez le doute en fait. Et ça,
mais
c'est...
tout le monde là le doute. Il y a le doute.
Il y a le doute, sauf que le résultat est là. C'est Ouattara qui est président.
Mais quel résultat?
Il y a pas de résultat. Le scrutin,
mais ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Bah enfin, vous êtes cinglés, ils ont quand même bien voté les gens.
Oui, mais alors, les avocats Vergès et Dumas disent que le Conseil constitutionnel ivoirien a admis qu'il y avait eu des problèmes de vote et ils ont invalidé le vote dans le nord du pays. Évidemment, c'est dans le nord du pays que Ouattara arrive en tête. Et c'est ce qui fait que Gbagbo serait, d'après le Conseil constitutionnel ivoirien, le président en place. Et c'est d'ailleurs ce que Roland Dumas soutient, puisqu'il était lui-même président du Conseil constitutionnel en France. Et voilà pourquoi aussi Libération, d'ailleurs, termine aujourd'hui son papier en disant « On aurait apprécié pareil vigilance de Monsieur Dumas quand il a validé les comptes de campagne d'Edouard Balladur en 95, en dépit des 10 millions de francs déposés en liquide. » Et paf. Pour Dumas.
Bien sûr.
En tout cas, nous, on n'a pas deux gagnants. C'est Ingrid qui est celle qui partira. Désolé, Philippe, à moins que le Conseil constitutionnel valide votre participation. Mais on vous entend plus, hein, Philippe.
Non, on n'entend plus du tout. Non,
bah, Philippe, foutez pas de sa gueule non plus, Ingrid.
Non,
À la limite, elle a fait tralala l'air.
Non, mais elle est garce, hein.
Elle est née, hein.
Philippe.
Oui.
Ah, merci, Philippe. Salut, pas trop Philippe. Déçu?
Non.
Bon.
Passez une bonne journée, Philippe.
Bah voilà. Vous retenterez votre chance. Jérémy voulait vous dire au revoir.
Ouais, passez une bonne journée, Philippe.
On vous embrasse tous les deux.
En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h.
Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu.
Europe 1.
39, 21, 34 centimes d'euros par minute, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour assister à On va se gêner avec le maître de cérémonie, Laurent Ruquier.
Pour quelle raison a-t-on vu régulièrement dans les journaux ces dernières semaines les photos de Madonna, Pharrell Williams, Lily Allen et Justin Bieber? Tous à propos d'une même chose.
Les meilleurs vendeurs de l'année?
Non, non, justement.
Ils ont tous reçu un prix?
Non, non. Justin Bieber, Lily Allen, Pharrell Williams et Madonna.
C'est ceux qu'on fait le plus parler d'eux?
Non.
Les ventes qui ont le plus baissé?
Non.
Les plus téléchargés?
Non.
Mais c'est plutôt
ça vous laisse perplexe hein, cette question. Ah ouais,
c'est plutôt honorifique ou c'est plutôt à cause d'une histoire de loose?
Ils sont rentrés au musée Tussaud?
Au musée Tussaud, non.
C'est les quatre icônes gays derrière Michalak.
Non.
Pourquoi trop drôle.
Madonna, Pharrell Williams, Lily Allen et Justin Bieber.
Ils ont chacun marqué leur génération.
Et à chaque fois qu'on en parlait, ils étaient en photo. C'est important pour le sujet, évidemment.
Avec quelqu'un?
Ah, c'est sur les fringues.
Alors oui, c'est sur les fringues.
Alors ils portent des fringues.
Les mieux habillés, les plus
non.
tendances.
Non.
Ils les sont moins, habillés par. Les plus mal habillés de la
non,
génération.
Non,
mais c'est un classement.
C'est pas un classement.
Lanceur de mode.
Voilà, d'une mode en particulier.
D'une mode.
La casquette.
Pas la casquette.
Le chapeau.
Pas le chapeau.
La crête.
La mèche de cheveux, les cheveux.
Non.
Quel rapport entre Madonna et Justin Bieber?
Ah bah ils portent la même chose.
Ah c'est une marque.
Un tatouage.
Pas un tatouage.
C'est une marque.
Non, on était tout près, hein.
Un bracelet. Un
béret. Des chaussures.
Un béret.
Une burqa.
Non, pas une burqa. Mais on est pas loin.
C'est un truc qu'on porte sur la tête?
Oui, oui.
Une boucle d'oreille.
Un bandana?
Non, vous avez dit une casquette, c'est pas une casquette.
C'est pas un chapeau,
un béret.
Un
béret.
Un bonnet.
Une casquette. Ah bah non.
Pas un bonnet, justement.
Un chapeau de cow-boy.
Un cache-oreille.
C'est-à-dire?
Des trucs qu'on met là pour se boucher les oreilles.
Des boules-caisses.
Des boules-caisses.
Non.
C'est sur les oreilles?
Une cagoule.
Des boucles d'oreilles.
Entre autres.
Mais non, ça je l'ai dit.
Un passe-montagne.
Un passe-montagne.
Comment vous appelez ça?
Une cagoule.
Non, c'est pas une cagoule, justement. Enfin, écoutez.
Enfin, quoi, écoutez.
Moi j'en avais une pendant les fêtes de fin d'année.
Ah oui, une casquette à oreillettes.
Ah,
comme ça.
Une burqa.
Une otite.
Ah oui, une chapka.
Une chapka.
Ah, ouais.
Bonne réponse de Christine, bravo.
Ah, il y en a partout.
On est alors là. D'accord.
La chapka est le chapeau à la mode.
Pendant les fêtes, tu portais une chapka?
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a des images quelque part?
Parce que je suis allé faire de la raquette.
Un bon sujet, tiens.
Il est de la raquette maintenant.
J'ai fait de la raquette du côté de Val d'Isère.
Il est de la raquette.
Et oui, et j'avais une chapka.
Et c'est un peu un escort boy russe, surtout.
Pas du tout.
Dimitri, viens par là.
C'est vrai que c'est un mot russe, vous avez raison, chapka.
Oui, merci. Pas possible. Oh bah j'aurais jamais cru. Je croyais que c'était un mot sénégalais, un chapka.
Ça aurait pu être que c'est un chapeau à rabat, alors ça aurait pu être marocain.
Oh, le bon. Justement, je te dirais, pour ta gouverne, mon petit gars, que la chapka, ce n'est pas le truc à oreillette. Il y a des chapkas à oreillette et des chapkas sans oreillette.
Oui. Chapka, ça vient de Ushanka, qui veut dire chapeau à oreille.
Ah, il y a débat.
Alors, Pierre Bénichou.
Alors là, si vraiment pour conforter sa mauvaise foi, il invente des mots russes.
Non, c'était dans le Parisien.
Mais quelle couleur ?
Chapka, issu peut-être du français chapelle, qui veut dire ancienne forme de chapeau. Mmh. Selon le petit Robert, la chapka est une coiffure de fourrure à rabat pour les oreilles. C'est la définition du petit Robert. Alors, définition.
Donc, le
véritable nom est en fait Ushanka, littéralement chapeau à oreille. Au Québec, je dis ça pour Sébastien, on appelle ça casque de poil. C'est vrai? Un casque de poil.
Ben, c'est moins bon que la tarte de poil.
Il est bon celui-là.
C'est la Jérôme Bonaldi normalement.
Il a reçu des gadgets pour Noël ou quoi?
Bah oui, en tout cas j'avais une chapka. Bah oui,
quelle couleur?
Sur les oreilles.
Grise, une belle chapka. Grise.
En fourrure. Pourquoi grise? Elle peut être couleur vison.
Pour être plus discret, pour pas qu'on me reconnaisse dans la forêt.
Oui, bien sûr. Que les écureuils te sautent pas dessus.
Remarquez, j'ai croisé personne. Hein. Pas une bête, pas un homme, rien.
Bah tu fais peur avec ta chapka.
c'est chouette. Hein.
C'est
la première fois que je mets deux heures de marche et puis
tout seul.
Ah, pas tout seul avec un guide, voilà.
Ah, bon. D'accord.
Voilà.
Ah ouais, avec un guide.
Ouais. Bah, vous n'avez jamais fait de raquette?
Ah non, ça, je n'ai jamais fait de raquette.
Ouais, à Pigalle un peu, mais c'est tout.
N'empêche que ça a vachement changé parce que quand je me suis inscrit pour faire des raquettes, je pensais qu'on allait me donner un truc comme on voyait avant dans Picsou et dans les Castors Junior.
Le truc de David Croquette.
Et voilà, la raquette en bois avec un cordage et tout.
Oui, comment c'est maintenant?
Bah, c'est plus du tout comme ça.
Comment
les raquettes, vous avez l'impression d'avoir un truc fulguro-pointe comme Goldorak au pied, là.
Non.
En plastique. Ah, je vous jure, c'est incroyable. À votre taille, ça s'ajuste.
Ah bah, il s'est bien foutu de ta gueule, je vais dire.
Ah non, mais ça n'a rien à voir avec une raquette. D'ailleurs, on ne devrait plus continuer à appeler ça raquette. C'est, je sais pas, des sortes de patins. C'est comme c'est comme si vous aviez un jet ski à chaque pied, en fait. Oui.
Et tu grimpes?
Comment ça, je grimpe?
Quand tu raquettes, là, tu grimpes ou tu fais que marcher?
Ah bah, jusqu'à des milliers de mètres d'altitude.
Mais tu en montée?
Ah bah oui, en montée, puis après on redescend, on glisse.
Les raquettes?
Les histoires de neige m'ont toujours fait chier, mais autant que celle-là, jamais.
Oh. Bah vous étiez où pour les fêtes, vous, Pierre, alors?
À la neige. Ah.
Mais,
non.
Mais où ça?
Aux œufs à la neige.
Ah bah, d'accord.
Je sens que je vais m'en servir.
Ça veut dire quoi, ça?
Je sens que je vais m'en servir souvent de ce truc.
Ça veut dire quoi?
C'est un bide.
Ça veut dire c'est un bide.
Mais t'as que deux sons.
C'est un bide. Prends autant de bides que moi.
Non, j'espère que non. Non. Quoique avec la raclette, la tartiflette. S'il y a bien un endroit où c'est terrible pour le poids, c'est la neige.
Hein. On y retourne à la neige bientôt, non?
Ah oui, c'est vrai qu'on sera à l'Alpe d'Huez. Bien. Il est bon ce joujou. Hein. Vous avez vu. Hein. N'oubliez pas de voter pour lui sur
Facebook. Vous serez à l'Alpe d'Huez.
Ah, si vous venez avec nous, Pierre, à l'Alpe d'Huez. C'est pour le festival du film comique. Vous qui êtes scénariste maintenant pour le prochain film de Fabien Antoniente, vous devez absolument être là-bas.
Qu'il est bon, le scénario, je l'ai relu, putain.
Pour vos prochains contrats et tout, rencontrer d'autres producteurs de cinéma, c'est important pour votre carrière, Pierre.
On en fait chier le soir. Hein. Dès que tu sors de l'hôtel, tu glisses. Et tout.
Bah, je vous prêterai des raquettes. Et puis une belle chapka.
On peut t'élitroyer.
Non, je veux dire, j'aimerais bien.
Élitroyer, vous dites-vous.
Élitroyer.
Élitroyer.
Élitroyer. Ah, bah merci de la rectification.
On va t'élitroyer.
Élitroyer.
Élitroyer.
Et hier, c'est... Un treuil.
Oui, un treuil. Bah oui, un treuil.
Alors donc, tu es Élie Treuiller.
Élie Treuiller.
Chaque jour, un nouveau mot.
Vous connaissez Montreuil?
Ah non. Si, je connais Montreuil par Dominique Voynet.
Non, mais le sien.
Ah, son treuil. Oh.
Ça marche à chaque fois. C'est... On peut la refaire tous les 6 mois, c'est
ah,
bon.
J'en ai marre, là. Non.
Qu'est-ce qu'il y a?
J'en ai marre. Attendez, vos jeux de mots, là, con. Là.
Oh, tu sais, quand t'as 3 icônes gays sur le plateau, ça file dans ce sens-là.
Pourquoi vous m'avez oublié, Fabrice? Paul Anacone est un entraîneur qui va sûrement faire parler de lui encore cette année. Pour quelle raison Paul Anacone est un entraîneur dont on va parler?
Anacone, c'est du tennis.
Oui, bravo.
Peut-être Tonga?
Non.
Entraîneur d'un joueur français?
Non.
Nadal, alors?
Non.
Federer?
Federer, c'est le nouvel entraîneur de Roger Federer. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est marrant parce que moi j'imaginais même pas qu'on avait encore un entraîneur quand on s'appelait Roger Federer. Je pensais qu'on faisait ça tout seul, quoi, qu'on avait plus besoin de quelqu'un pour s'entraîner. Et Federer dit non, Paul Anacone cherche de nouvelles voies pour essayer de battre l'adversaire, des voies que je n'avais pas vues auparavant et que je vais pouvoir exploiter. C'est un nouvel entraîneur qui va peut-être lui apporter encore plus pour cette nouvelle année. C'est ce que dit Federer en tout cas dans la presse.
Et donc, un entraîneur, j'ai jamais su, est-ce qu'il joue avec lui ou pas, ou seulement il l'observe jouant et il lui dit tu devrais...
Je pense qu'il l'observe et il a un sparring partner.
Il a un sparring partner.
Ah, qui est différent de l'entraîneur.
Oh, je pense, oui. Enfin,
et les raquettes.
Écoutez, moi qui m'y connais en raquettes.
Bien sûr. Elles sont toujours quadrillées. Tennis.
Ah, au tennis, elles n'ont pas bougé les raquettes. C'est pas comme celles qu'on a au pied.
Ça fait peur.
Ah non, celles qu'on a au pied, j'en reviens pas encore.
Ça a beaucoup changé la raclette, hein. La raquette.
Ah moi tu me tapes pas, hein. J'y suis pour rien. Parce que c'est moi qui regarde méchamment. Ouais. Ah non, alors moi j'y suis pour rien, je suis neutre, je t'adore et je te soutiens.
Vous avez vu merci. Ça un peu, hein. Ah,
bah, merci.
Non mais
vieux.
Il me frappe à coups de chaussures, hein.
Comment il va notre nouveau patron, monsieur Oliven? Alors Pierre, vous avez des nouvelles?
Pardon une seconde. Il va très bien. Non, je suis obligé de me lever quand je parle longtemps.
Maurice Aubrejean va faire partie d'un jury le 11 janvier prochain. Jury étonnant puisque de ce jury va naître évidemment un lauréat. Et Maurice Aubrejean fut lui-même lauréat de ce concours.
Oh, ça doit être les bébés Cadom, ça, non?
Bébés Cadom, excellente réponse de Christine, bravo. Comment vous savez ça?
Parce que je me souviens du nom de ce bébé Cadom.
C'est le premier bébé Cadom, voilà, de la marque.
Qui doit pas être tout jeune d'ailleurs.
Ben non, parce que lui, il a été élu bébé Cadom en 1925, Maurice Aubrejean, et il continue à faire partie du jury qui choisit les nouveaux bébés Cadom. Et on aura le 11 janvier le nom du nouveau bébé. Emma Domas, Sylvie Tellier, Adeline Blondiot.
Non, tu rigoles.
Font partie, oui. Ils vous ont pas demandé?
Ah non, du jury.
Ah non, du jury.
Non mais ça a l'air d'être très vieux puisqu'il l'a eu en 1925.
Bah oui,
mais c'est pas le prix Nobel.
Oui.
S'il a été prix Nobel en 1925 et qu'il est aujourd'hui membre du jury Nobel, c'est emmerdant.
Oui.
Bébé Cadom, il avait 6 mois.
Oui.
Ça m'est venu d'un coup. La prochaine fois que tu fais ding ding ding, tu
casses. Non, si. Non, là, ça mérite.
Ce que Pierre Bénichou veut dire, c'est que quelqu'un qui aurait été lauréat d'un concours et qui ferait partie d'un jury tel le Nobel, on a le Nobel quand on a 20, 30 ou 40 ans, serait 50, très très vieux aujourd'hui. 50. Tandis que quelqu'un qui a été lauréat du Bébé Cadom n'avait que 6 mois ou 1 an quand il était Bébé Cadom.
C'était quand même en 1925.
Mais c'était quand même Pierre en 1925, ce qui veut dire que.
84 ans.
Voilà, il y a, bah oui, bah il a 84
ans. Bah, qui n'a pas 84 ans ici?
Et donc, elles ne sont pas évidemment candidates, elles font partie du jury, Sylvie Tellier, Emma Domas et Adeline Blondiot.
Tout le monde peut amener son bébé?
Ah non, il y a une sélection. Hein. D'ailleurs, Gala nous disait fort justement que Laure Manaudou aurait très bien pu inscrire sa petite Manon qui a 9 mois, puisqu'elle est elle-même, Laure Manaudou, l'égérie de la marque Cadom. Mais là, on aurait vu du favoritisme, bien évidemment. Sûr. Alors, elle ne l'a pas fait, elle n'a pas inscrit Manon. Alors, il faudra voter pour un autre bébé. Vous voulez pas faire partie du jury aux côtés de Sylvie Tellier, Madomas ou Adeline Blondiot? Oh, bah, c'est un beau jury.
Non, moi, j'irais bien Fabrice.
Bébé Cadom.
Ou pour Stevie, mais plus bébé condom, lui. Un truc un peu dégueulasse.
Ils sont
présents, ils sont tous là pour vous faire rire. Si on va se gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui, Pierre Bénichou, Stevie, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué.
Donnez-moi les deux noms auxquels Jerry Brown a succédé. C'est la question suivante.
Schwarzenegger, Reagan.
Wow ! Excellente réponse. Bravo. De Fabrice Eboué. Effectivement, vous saviez, Stevie,
c'est le nouveau gouverneur de la Californie.
Exactement, et il se trouve qu'il avait déjà été, c'est pas tout à fait nouveau gouverneur, puisqu'il avait déjà été gouverneur avant Schwarzenegger.
Et après Reagan.
Et il avait succédé à Ronald Reagan, c'est-à-dire qu'il est coincé entre deux acteurs de cinéma.
Dans un état en faillite, en plus.
Ah oui.
Ah bah c'est un état en faillite totale.
La Californie.
Bah moi j'aimais bien Schwarzy.
Ah oui.
Bah oui, parce qu'il c'est le seul gouverneur à avoir fait quelque chose pour l'écologie aux États-Unis. Donc moi je suis plutôt pour. Parce que quelle est la priorité absolue à part de conserver notre espèce.
C'est un républicain, il est facho.
Bah détrompe-toi, puisque c'est pour un républicain, c'était le seul républicain à être pour le mariage gay, par exemple,
ou pour
l'écologie.
Arrête,
il est démocrate, alors, républicain. Toi, après t'as les hommes, après les partis t'as les hommes, voilà. Et tous les hommes ne sont pas néfastes, voilà. Moi j'ai un maire de gauche au Mans et je l'adore.
Mais enfin, vous n'avez pas comparé le maire du Mans avec Arnold Schwarzenegger. Franchement.
Oui, c'est vrai.
On ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va revenir au cinéma?
Il a dit peut-être.
Rester dans le milieu politique.
On dit beaucoup qu'il va aller justement, qu'il va rejoindre Obama. Bien que Obama soit démocrate
Et
que
c'est
lui.
Bizarre.
Et républicain, il va rejoindre Obama et qu'Obama.
Un poste en lien avec l'environnement, il a raison, Stevie.
Je cite Europe 1 ce matin et que Obama serait très friand, comme Sarkozy au début de son règne, de piquer quelques personnalités dans la mouvance d'en face.
Non, mais faut dire aussi qu'attention, il est républicain, tendance démocrate, c'est vrai aussi.
Il est marié avec
républicain, tendance
Kennedy,
démocrate. Il est de droite, tendance gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ça, républicain dans...
Ben oui, c'est-à-dire qu'en Californie, effectivement, il était apprécié aussi.
Mais d'accord, mais enfin, la Californie est un état il a ruiné.
C'est mieux aujourd'hui, enfin, au contraire.
Mais tu peux pas savoir dans quel état. C'est un état en faillite.
Mais
aux États-Unis.
Je sais, mais avant l'arrivée, justement, il y avait des coupures d'électricité, les infrastructures, les routes. Ouais. Mais c'est vrai ce que je dis, enfin.
J'ai l'impression qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Ils sont fous, quoi.
Jérémy, vous étiez il y a pas longtemps à Los Angeles avec notre ami Stevie.
Oui, donc je confirme, l'état est en faillite.
Est-ce qu'il a fait la photo comme Schwarzy devant les lettres Hollywood?
Bien sûr. C'est toi qui produis cette émission de merde, là?
Ouais.
C'est pas de merde.
Le palmarès de ce mec.
Ça se trouve, ça sera meilleur que ton film, mais oui. Je suis sûr qu'on en parlera davantage. Non, mais elle est mignonne, la gamine.
Ne réponds pas à un mec qui tourne avec Franck de la personne.
En plus, c'est un ami. Donc, ça, à mon avis, ça va sauver le film. Ah ouais.
Heureusement que j'ai la fibre qui me sauve.
Voilà, raconter Los Angeles avec Stevie. Alors, il a posé devant les lettres Hollywood tout.
Ah, il a posé.
Mais il faut se mettre où pour avoir la photo devant les lettres Hollywood?
Devant les lettres Hollywood, c'est mieux.
Mais c'est où devant? Non, parce que c'est très haut.
C'est sur les collines, c'est sur les hauteurs de Los Angeles.
Tu vois Hollywood qui est une capitale du monde. Et la capitale, justement, du stuc, du grandiose, du machin, tu penses qu'Hollywood, ça va être des lettres énormes. C'est un truc qu'on a l'impression que c'est un truc provisoire, avec des lettres en carton, sur un tout petit truc. C'est pas impressionnant du tout, quoi.
Non, mais c'est le lieu qui est mythique.
Bah oui.
C'est vachement impressionnant de se retrouver devant les lettres d'Hollywood.
C'est impressionnant. Ouais.
Moi, quand ils m'ont fait mettre mes mains dans le truc là, pour au fame, le truc de la célébrité, j'étais là. Et ben Marlon Brando me disait, mais on n'a pas l'air con à faire ça. Non, mais sérieusement. Non,
Pierre, tu confonds. Je crois que c'est pas Hollywood, c'est dans les courtes pailles que tu as ta photo et ta main.
Et c'était pas Marlon Brando, c'était Brandon de l'île de la Tentation.
Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors?
C'est marrant d'être la tête de turc d'une bande de têtes de cons.
Qu'est-ce que fait la société Toréador d'après le Parisien?
La tauromachie.
Non, justement pas. Non. Qu'est-ce que fait la société Toréador d'après le
tenter du pétrole.
Pardon?
Du pétrole peut-être.
C'est-à-dire?
C'est la société qui forme des puits de pétrole en Seine-et-Marne.
Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est d'ailleurs Julien Balkany qui est vice-président de Toreador.
Il y a un lien avec.
J'imagine qu'il fait partie de la famille Balkany. Oh, et effectivement, cette société cherche du gaz et du pétrole sous notre territoire.
Bah, c'est étonnant.
Eh ben, oui, mais il y en a.
Il y a trois ou quatre sociétés comme ça qui ont du, cherchent et qui trouvent du pétrole en France.
On estime que les roches-mères du bassin parisien contiennent au minimum 65 milliards de barils.
Bah, c'est normal avec tous les Arabes qu'on a, je vais te dire.
Mais alors, on nous dit que les Français seraient assez contre la multiplication de derricks à deux pattes chez eux. C'est ça le problème.
Alors moi, dès qu'il y a du derrick, je suis devant mon poste. Ah ouais.
Ils se sont battus pour le jeu de mots quand même.
Ils se sont battus pour le sortir en premier. Oui. C'est minable.
Alors que moi, j'y serais même pas allé. Hein,
même Laurent.
Était dans la phrase déjà. Bien, voyez. Sûr. Non mais moi je vous posais la question sérieusement. Est-ce que vous ça vous gênerait d'avoir un derrick près de chez vous
Non, moi ce qui me gênerait c'est d'avoir tous les paysans qui sont là, qui étaient là avec leur béret, qui se prennent tout d'un coup pour JR et qui arrivent avec leur chapeau de cowboy en disant How are you, Bonnie? Tu vois, ça me fait chier ça. Mm. Le premier qui remet la main.
Oh Laurent, c'est le tronche.
Ben oui, voilà ce que c'est. Moi, il faut pas m'interrompre. Dès que j'arrête 15 jours, je suis long à remettre en marche.
Besançon détient un triste record actuellement. Lequel ?
Des suicides.
C'est dans l'Est ?
Oui. Ben Besançon, ça a pas bougé beaucoup hein, depuis l'année dernière. Hein. Besançon est au même endroit qu'en 2010, voyez-vous, en 2011. Besançon, c'est dans le Doubs, ma chère Christine.
Et qu'en 1802, surtout.
Ah oui, bien sûr, cher Pierre.
Mais c'est joyeux ou c'est triste?
C'est pas triste à en pleurer, mais enfin, c'est pas un record dont la ville peut s'enorgueillir.
Ah, c'est la ville la moins ensoleillée.
Non, pas du tout. Ah,
c'est pas les voitures brûlées à la Saint-Sylvestre?
Non, mais on se rapproche.
Les enfants brûlés à la Saint-Sylvestre?
Non.
Non, mais ça, c'est traditionnel.
Les enfants mutilés avec les pétards?
Mais non, enfin, écoutez. Occupez-vous du vôtre, enfin.
C'est un rapport avec les sapins de Noël ?
Du tout.
Avec la délinquance ?
Non, ça n'a pas un rapport direct avec les fêtes de fin d'année, encore que là...
Ça s'est aggravé.
Ça s'est aggravé pendant les fêtes, mais c'est un bilan sur un an.
C'est les vieux abandonnés ?
Comment ça, les vieux abandonnés ?
Eh bien, abandonnés par leur famille.
À Besançon, plus qu'ailleurs.
Oui, les gens vont jusque là-bas pour déposer les vieux, normalement. Moi, j'ai laissé ma grand-mère à Besançon l'été dernier. Elle y est encore.
En 1802 ?
Ouais.
Bon, c'est à combien de kilomètres de Metz ?
Je m'en fous, moi, non, que mais tu me demandais ça.
C'est dans quel coin ?
C'est dans le Doubs, vous voyez, le Jura, Pontarlier, tout ça.
Voilà. D'accidents de voiture.
Non,
de
non.
Victimes sur les routes.
Non.
Est-ce que c'est un travers humain ?
Oui. On accuse les jeunes, d'ailleurs, entre autres.
Ah, alors, ils font du bruit.
Ah, de cimetière profané.
Non, pas du tout. Ça, c'est à Strasbourg, plutôt.
D'exploser des boîtes aux lettres ?
Non.
Ils font du bruit.
Mais on se rapproche.
C'est un acte.
Le vandalisme.
C'est un acte de vandalisme, mais lequel ?
Contre des bagnoles ?
Pas contre des bagnoles.
Les radars.
Pas les radars.
Grisser dans les boîtes aux lettres ?
Pardon ?
Pisser dans les boîtes aux lettres ?
Pisser dans les boîtes aux lettres ? J'ai jamais fait ça, moi, pisser dans les boîtes aux lettres.
Ça, c'est parce que tu le fais.
Bah, dis donc, il faut en avoir une grosse, hein, parce que. Enfin, faut être haut. C'est haut, les boîtes aux lettres.
Non, mais. Ah oui ?
On sent le mec qui a essayé et qui a été super frustré de pas y arriver.
Les boîtes aux lettres dans un haut immeuble, elles sont super hautes. Comment tu veux mettre un pénis dedans ?
Je savais, je m'étais dit.
Et puis alors, elle est fine, la tienne, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que pour qu'elle rentre dans un truc à boîte aux lettres.
Je m'étais dit, t'as un peu de fièvre, tu diras que t'as la grippe. N'y va pas ce matin. Ma mère m'a obligé à venir. Je voulais pas être là. Il a pissé dans les boîtes aux lettres pour en avoir une grosse. Non mais sérieusement.
Non mais c'est pas ça.
C'est pas ça de toute façon. Quel est l'acte de vandalisme dont Besançon détient le record?
Ah je sais, un castor il peut, il a la queue plate et longue.
Quel est l'acte de vandalisme dont la ville de Besançon détient un record?
Les parcs-maîtres.
Pas les parcs-maîtres.
C'est la ville où on fait le moins l'amour avec les préservatifs, il paraît.
Ah bon, pourquoi?
Parce que c'est Besançon.
Voilà, là.
Besançon, c'est très bon, putain. Hein.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Oh là là. Au moment où un ami vient d'être engagé comme patron.
C'est con.
Non mais vous, vous non mais arrête, laissez-le tranquille. Il a fait un AVC pendant...
Il s'en va. Il va fumer une clope, il fait une pause. Revenez dans un instant, Pierre. Pendant ce temps-là, essayez de me trouver quels sont les actes de vandalisme dont Besançon détient le record.
Et je sais pas, les digicodes, ils pètent les digicodes.
Pas les digicodes.
Est-ce que c'est grave d'abord?
C'est un... c'est embêtant quand même.
C'est embêtant pour la poste.
Les graffitis.
Pas les graffitis.
C'est embêtant pour qui?
C'est embêtant pour la ville. Pour...
C'est drôle un peu.
Pour les habitants.
Ah, les panneaux publicitaires.
Les panneaux publicitaires et particulièrement.
Et les abribus.
Et les abribus. Bonne réponse de Christine Bravo.
Mais il y a des... Attends, il y a des bus là-bas?
Non.
Ah, la bobane.
On peut y aller, ils ont pas la radio. Hein.
Le parc de panneaux installé à Besançon représente 180 abribus, 200 panneaux publicitaires vandalisés.
Attention, attention, et j'ai loupé la réponse.
Et c'est surtout l'entreprise Deco, évidemment, qui est embarrassée par ce record bisontin, hein, puisqu'on appelle les habitants de Besançon les Bisontins et les Bisontines. Et oui, un triste record. C'est une mauvaise publicité pour la ville.
Pour la vieille ville espagnole.
1802.
Je connaissais quand même, non?
Allez-y, expliquez, Pierre. Je sens que ça va être votre moment.
Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà, Napoléon pointait sur Bonaparte.
C'est Victor Hugo.
Oui. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, naquit enfant, c'était moi. C'était Victor Hugo qui dit ça. Il est né à Besançon, vieille ville espagnole. Je ne connaissais pas ça.
Non,
vous ne connaissez rien. Et le père est allé, le général Hugo était allé déclarer son fils. Et on lui a dit, bonjour monsieur, j'ai une naissance à déclarer. Il dit, très bien monsieur Hugo, comment il s'appelle? Le fils, il a dit Hector. Et l'employé de mairie, il a dit, vous êtes sûr?
Je comprends pas.
Ça c'était pour le final.
Non, parce que j'ai ça dans la boîte à son qui est pas mal aussi. Hein. On se retrouve dans un instant.
Alors ne perds pas de temps, on laisse des gens qui ont du talent. Je vais aller me reposer deux minutes. On laisse la place à Laurent Ruquier et ses complices. Bon, on va gêner parce que eux, ce sont les humoristes de la station.
Pour quelle raison les noms de Cyrio Rossi et Adrien Belin reviennent-ils régulièrement dans la presse aujourd'hui?
Pour les gâteaux apéro.
Du tout. Belin. Ah oui, Belin, c'est vrai, mais alors, et Rossi, alors, ça serait qui alors?
Bah, un groupe Kino, italien. Kino. Ou...
Cyrio Rossi, Adrien Belin, on devrait les compléter par un troisième nom, et si vous me donnez ce nom.
C'est pas du sport.
Gucci? Non.
Ça sent le Paris-Dakar.
Non, Cyrio Rossi, Adrien Belin et...
C'est pas du sport. Non, ça sent le Super G.
Le Super G, c'est quand vous réussissez à pisser dans la boîte aux lettres. Cyrio Rossi, Adrien Belin, il manque un troisième nom, nom que vous trouverez dans la presse avec ces deux autres-là.
Non.
C'est un sport de raquette?
Non, il s'agit là, donc, vous l'aurez compris, puisque je vous donne deux noms, il manque un troisième, c'est donc un...
Un trio.
Voilà.
Il faut être trois.
Belin, Rossi et...
Ah, c'est le champion de boule, c'est de pétanque, d'une triplette.
Ah oui?
Oui, Rossi, Belin, et le troisième, c'est Armand.
Vous connaissez les noms des champions de pétanque?
Oui.
Ouais.
Non, c'est pas ça, c'est pas. Non.
C'est quoi? C'est du relais?
Du relais, non. Mais c'est pas sportif. Hein.
C'est du handball?
Ça n'est pas sportif.
Ça relève du plaisir.
Ce sont des inventeurs?
Comment ça?
Ce sont des inventeurs? Non, c'est des gens qui ont inventé quelque chose?
Non.
Qu'est-ce que tu entends par ça relève du plaisir?
Eh bien, ça leur fait plaisir d'être... Enfin, c'est quelque chose de positif. L'association des trois prénoms, c'est quelque chose qui...
C'est pas trois prénoms, c'est trois noms. Cyrio Rossi, Adrien Belin, il manque un troisième nom.
Qu'on connaît, nous.
Un nom dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'on redonne les deux autres noms.
C'est politique.
Et il s'agit, vous l'avez compris, d'un trio.
C'est politique.
Alors?
C'est lié à un événement particulier aujourd'hui?
Non, et ça n'est pas politique. Un événement particulier, oui, forcément. Comme toutes les questions que je pose.
L'éclipse, lié à l'éclipse?
Lié à l'éclipse. Et ces trois noms-là, alors?
C'est lié à la mort de quelqu'un.
Bravo!
Mais alors lequel?
Achtendre et Tête de Bois.
Alors comment?
Albert Elsner.
Et alors?
C'est les trois fondateurs.
Eh ben oui. Eh ben c'était.
Les trois producteurs.
Non, ils ont tous animé l'émission.
Les trois comédiens.
Ils sont tous morts.
Non.
Ils jouaient tous de l'harmonica.
Exactement, le trio Resner, formé par Albert Resner avec Cyrio Rossi et Adrien Belin. D'ailleurs, je ne suis pas certain que les deux autres jouaient forcément de l'harmonica, mais ils formaient un trio musical, le trio Resner, puisqu'Albert Resner, outre le fait d'avoir été un animateur télé-radio,
très, très bon,
il a été un musicien avant tout. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Ah non.
Et Christine, bravo.
Non, c'est Christine qui a dit trio Resner.
Non, c'est moi qui ai dit Resner.
Non, non, toi, t'as trouvé, t'as buté sur le nom.
Je pensais que vous connaissiez le trio Resner, Pierre Benichoux.
Mais oui, j'ai connu le trio Resner, puis j'ai oublié. J'ai oublié qu'on disait trio Resner. Vous savez, je suis pas moi-même. Quand on m'aime pas, je ne trouve rien.
Albert Resner, vous avez suivi ses émissions Un tendre et tête de bois, Pierre?
Non, j'étais déjà trop vieux.
Comment ça?
Ça me faisait chier.
Ça s'est arrêté quand? Quelle année ça?
Yé, tout ça, c'était le premier avec le temps, la tête, le bois. Regardez. Moi, je me suis arrêté à Gilbert Bécaud.
Ah oui?
Moi, je trouve qu'il a complètement foutu la chanson en l'air.
Regardez, j'ai des tas de
bah, écoutez, où t'as trouvé les 45
en fait,
tours?
En fait, ils jouaient de l'harmonica tous les trois. Regardez.
Mais où est-ce que t'as trouvé ça?
Le trio Resner.
Alors, j'avais raison pour l'harmonica, mais où t'as trouvé ça? Chez lui.
Chez lui, oui.
Mais non, ici à Europe 1.
Tu sais, il a une vieille malle, il a une chapka, des 45 tours et...
Montre-moi, c'est magnifique.
C'est des petits trésors, ces trucs-là.
Ah bah, on a un repas, on a une discothèque, croyez-moi. Vous voulez qu'on vous passe un morceau alors?
Non,
on a un truc pour lire les vinyles.
Vous avez lequel alors?
Il y a un truc génial pour les 45 tours. C'est une platine que tu branches à ton ordinateur, ce qui te permet d'encoder en fait tes 45 tours sur ton iPod.
C'est pas vrai.
C'est génial ça, ce qui fait que.
Eh ben tiens, tu vas t'encoder à Albert Resner là.
Encoder tes 45 tours sur ton iPod.
Qu'est-ce qu'on pourrait passer? Je connais pas les titres, c'est ça le problème. Hein. C'est que des titres là que je connais pas.
Choisi un beau.
Sérénade antillaise, ça vous dit quelque chose ça?
Non, il doit sûrement y
Fabrice,
avoir.
Fabrice, ça vous dit rien?
Non. La danse du sabre, non?
Alors, il n'y a pas la danse du sabre. Il y a quand tu joues, le snap. Ah, retiens la nuit. Ah. Retiens la nuit par Albert Resner.
Retiens la nuit, joué par le trio Resner en hommage à Albert Resner qui nous a quitté il n'y a pas longtemps. Restez avec nous sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices pour la suite d'On va se gêner.
On va se gêner.
Laurent Ruquier et toute sa bande.
Jusqu'à 18h sur Europe 1.
Merci de votre fidélité à Europe 1. Merci d'écouter On va se gêner. On est ensemble jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier, avec son équipe et avec l'ami du Sud, l'ami Liano.
Europe 1, on va se gêner.
Do, ré, mi, fa, si.
Do, ré, mi, fa, si. Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, salut à tous.
Et vous revenez aujourd'hui sur un papier qu'on a pu lire dans le Parisien dès hier, mais qui est repris d'ailleurs par tous les autres journaux dès aujourd'hui, un papier sur l'optimisme de certains pays par rapport au pessimisme des Français, puisqu'on arrive loin dans ce classement, ce top 10 des pays les plus pessimiste ou optimiste, c'est le Vietnam, hein, je le rappelle, qui est le pays le plus optimiste, le Vietnam. C'est assez étonnant. La Chine, l'Afghanistan, le Nigeria, le Ghana, le Kosovo, le Bangladesh, l'Inde, le Brésil, le Pérou sont les pays les plus optimistes.
Il n'y a pas Haïti ?
Il n'y a pas Haïti, non. Et c'est vrai que nous, les Français, on est les plus pessimistes. Et vous avez fait quoi avec tout ça alors, Serge ?
Eh ben, j'ai regardé si dans la chanson, puisque si on est pessimiste, ça doit pouvoir se traduire dans la chanson populaire. Eh ben, en effet, il y a quelques œuvres qui témoignent, sinon de notre pessimisme permanent, du moins de notre scepticisme chronique. Voilà.
Donc, ça veut dire que vous allez nous passer que du Grégoire ?
Vous allez voir. Non, il n'y a pas que du Grégoire.
Eh ben, soyons optimistes, on t'écoute quand même.
On chante plus la vie en rose. On chante la vie en morose. Iran, Irak, Afghanistan, le monde y craque, la peur fout le camp. L'avenir c'était plus beau hier. Nous allions éliminer la guerre. Pour nos enfants, jamais plus ce que nous avions connu. L'avenir c'était plus beau hier.
La vie est dure, je sais mon gars, elle a toujours, toujours été comme ça. L'avenir c'est toujours pour demain.
Au niveau de notre pollution, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Ou au niveau de la télévision, c'est pas la joie, c'est pas la joie.
C'est dur aujourd'hui.
Actualité, que l'époque est à la morosité.
Morose, moi, vous rigolez. Le président veut mon bonheur. Premier ministre veut mon bonheur. La droite, la gauche veulent mon bonheur. On me promet des jours meilleurs. Alors morose, moi, vous rigolez.
Le bonheur, c'est toujours pour demain.
N'ayez pas peur. Du bonheur, il n'existe pas, ni ici ni ailleurs.
Aie confiance, oui, crois en moi, que je puisse veiller sur toi.
C'est vrai qu'on a failli s'endormir, Serge.
Ah ça, c'est record battu, là. Hein.
De quoi ?
C'est sûr qu'il touche le boulevard.
Hein. Oh non. Vous êtes de mauvaise foi.
Un très bel hommage à Albert Reisner, pour le coup.
Il touche le boulevard.
Ah non, mais t'es...
Ah ouais, tu sais, le mec, il est là pour saboter le truc. Ouais.
Henri Salvador, vous avez reconnu, évidemment, qui chantait « C'est pas la joie, c'est pas la joie ». Il y a eu Alice Donna, « La vie en morose ». « L'avenir, c'était plus beau hier », ça c'était Guy Béard. « L'avenir, c'est pour demain », ça c'est Michel Sardou. Vous avez entendu Louis Chédid qui interprétait « Youpi ». Pierre Perret, évidemment, avec la formidable chanson. C'est une très jolie chanson de Pierre Perret, « Le bonheur, c'est toujours, pour demain ». Berry, une chanson plus récente, « Le bonheur » de cette chanteuse Berry. Et c'est évidemment le piton K du Livre de la Jungle qu'on a entendu à la fin et qui nous a endormi avec son « Aie confiance, Serge ».
Moi aussi, j'ai eu du succès à une époque, tu sais.
C'est pas grave, je vais partir en vacances.
À demain, Serge. Non mais quand même, revenons sur cette histoire assez étonnante du Vietnam en tête du classement des pays les plus optimistes, ouais. Alors que nous, les Français, mais on est super pessimistes.
Et oui, c'est parce que nous, on vit toujours sur... c'était moins bien qu'avant, on était la première puissance mondiale. Maintenant, regardez comment ça tombe, c'est fini. Alors que des pays qui ont été déchirés pendant longtemps, dès qu'il y a une petite lueur, ils sont optimistes. Tout est relatif, comme disait Einstein.
Non mais nous, on se modernise au fur et à mesure, alors qu'eux, ils rentrent dans la modernité. C'est là l'optimisme.
Donc ta gueule, toi, je l'ai dit en façon simple. Ils entrent dans la modernité de plein pied, non hein.
Notre duo d'économistes, Benichou et Boulet, vous parle. Alors, D'abord, le ministre du Bonheur, Stevie.
Je pense vraiment ce que j'ai dit. Ces pays-là, ils ne peuvent qu'avoir de l'espoir. Ils n'ont rien. Mais c'est vrai ce que
mais
je
c'est
dis.
Comme toi,
ils veulent tous aujourd'hui avoir un Mac, un iPad.
Moi, j'aimerais bien avoir un Mac.
Évidemment.
À condition que je ne sois pas trop brutal.
Mais il y a 15 ans, il y a certains pays, ils n'avaient même pas l'électricité. Aujourd'hui, ils découvrent l'iPhone 4.
Moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Ça s'appelle un progrès.
Il y a 150 ans, ils n'avaient pas l'électricité. Il y a des pays.
C'est humain. Regarde Stevie qui a grandi dans un milieu modeste. Une petite ferme du Mans, il est gay, quoi, il est joyeux tout le temps. Comme ça. T'as Pierre qui a grandi dans l'opulence, qui est un connard à longueur de journée. Allez, voilà, c'est tout. Quand tu pars de très haut, très bas, ça fait la différence. Quoi.
C'est vrai que vous êtes un peu râleur, Pierre, un peu ronchon. Et c'est vrai.
Non, pas du tout, je l'étais.
Et pas optimiste.
Je l'étais, mais maintenant je suis plein d'espoir après le bide que j'ai pris ce matin. C'est ça, quand tu prends des bides, tu as de l'espoir pour demain. Quand tu sors d'ici applaudi, tu dis. Putain, ils n'ont pas applaudi assez fort.
Et puis il faut dire que c'est des pays extrêmement jeunes aussi, d'où l'optimisme. Bah oui.
Un pays très jeune comme la Grèce.
Non, arrête. Tu prends le Brésil, c'est 60% de la population qui a moins de 25 ans.
Non, mais dis pas, on se fait rien.
Mais ouais, non, mais tu
ah oui, jeune en âge.
Mais oui, jeune en âge.
Ah, jeune en âge. Oui,
tu prends un jeune de 17 ans et tu prends Claude Sarraute, je pense que le jeune, il est vachement plus optimiste.
Pas du tout. Je suis pas sûr, alors. Je suis pas sûr.
Le chinois est optimiste, en tout cas.
Le chinois?
Ah, le chinois est optimiste.
Il s'est baisé la gueule, évidemment.
Ah, il s'est optimiste.
Bah oui, j'espère. La liberté,
le cubain est optimiste, vous qui revenez.
Ah oui.
Ah non, le cubain est très pessimiste.
Il est très. Non, c'est pas qu'il est pessimiste, c'est qu'il est très malheureux.
Il se prononce pas.
Oh. Non, mais sérieusement.
Le cubain ne se prononce pas.
N'est-ce pas que quand on revient de Cuba, on a une autre idée sur le communisme ou pas?
Ah ouais, bah, ouais, c'est vrai que c'est t'arrives à Cuba, tu penses que ça va être une sorte de village d'irréductibles, de résistants, et puis t'arrives et puis t'es totalement déçu, quoi. Tu vois que c'est juste des gens qui sont dans
les
la misère.
Les gens sont conscients.
Ils sont dans la misère.
Ils sont dans la misère, mais ils sont dans la misère, sauf qu'ils ont plein, presque tout gratuit, et qu'ils ont un sens de la fête, ah oui.
L'Union soviétique est tombée, ils sont plus aidés, ils n'ont plus les aides.
Non, ils sont logés
pour la santé.
Ils sont logés gratuitement.
Ça c'est vrai.
Ouais. Ils peuvent manger encore l'éducation. Il y a encore des choses.
L'éducation, les soins médicaux sont totalement gratuits. Plus.
Tu peux pas manger, Pierre. Tu peux manger.
Bon alors, tu as un peu de farine, une fois par semaine.
Tu as un œuf. Tu n'as pas.
Est-ce qu'on a besoin de manger plus, au fond?
Bien sûr.
Ben non.
Je ne défends pas cela. Je veux dire qu'il peut y avoir un pays comme ça, avec une dictature du prolétariat, avec tous les trucs, avec toutes ces injustices, où les gens ont l'air follement heureux.
Mais qu'est-ce que c'est beau, en tout cas. Vous avez bouffé beaucoup de langoustes?
Ouais, j'en peux plus des langoustes.
C'est vrai, hein, non mais ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à bouffer, mais alors en revanche, tu rentres, t'en peux plus.
Et quand tu rentres.
C'est terrible parce que t'en peux plus de la langouste.
Et quand tu rentres en période de fête et que ta mère est toute contente de donner les langoustes, que t'as envie de lui jeter à la gueule parce que t'as bouffé avec ça pendant un mois, c'est terrible.
Le meilleur rhum, le meilleur cigare, les plus jolies femmes. Ouais. Et la meilleure musique africano jazz africain, c'est quand même il faut bien dire qu'il y a des atouts absolument inouïs à Cuba, et c'est pourquoi beaucoup de gens se sont fait avoir politiquement en disant c'est le socialisme plus le soleil, c'est merveilleux, bon c'est un régime ignoble.
Il faudrait peut-être
on n'y est pas aussi malheureux que dans les pays de l'Est.
Voilà. Les filles sont magnifiques, il n'y a pas de MST en plus. C'est ce qu'elle m'a dit, moi, après.
Je parle pas bien la langue. Allez, d'autres questions et un nouveau challenge après 17h.
On va se gêner sur Europe 1.
15h30, 18h, Laurent Ruquier.
Encore une heure avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou. Bonjour Sabrina, bonjour Jérôme, c'est le deuxième challenge auditeur.
Bonjour à toute l'équipe.
Oh, il en sort Jérôme à La Rochelle. Sabrina, en revanche, je ne l'ai pas entendu. Ah voilà, bah alors, vous dormiez Sabrina?
Pas du tout, non, pas du tout, non, j'écoutais.
Méfiez-vous parce qu'il a l'air d'avoir la pêche le Jérôme là à La Rochelle.
Bonjour Sabrina.
Ah bah oui, bonjour. Il vous dit bonjour d'ailleurs, on s'a l'air d'être un bavard. Alors, parlons d'abord tous les deux Sabrina, vous êtes à Saint-Vivien de Médoc.
Oui, tout à fait.
En Gironde.
Tout à fait. Oui.
Que faites-vous alors? Pourquoi? Elle n'a pas le droit de dire tout à fait Pierre?
Mais non, on n'est pas tout à fait à Saint-Gironde de Médoc. Oui, précisément,
oui, ce sont
absolument.
Des auditeurs qui ont été marqués parce qu'ils ont joué au ni oui ni non pendant des années, alors ils continuent à essayer de gagner.
Vous êtes en Gironde,
non, parce que je vois pas le contraire de tout à fait, c'est un petit peu. Je vois pas comment on est un petit peu à Saint-Géron-de-Médoc, donc on dit
bon,
oui.
Écoutez, je suis complètement à Saint-Géron-de-Médoc.
Merci Sabrina. Votre métier, c'est quoi ?
Je suis professeur de danse.
Professeur de danse ? Oh
oui. Moi, pas du tout.
Mais quelle sorte de danse ?
Je fais de la danse hip-hop.
La danse hip-hop, ça ouais, alors. N'écoutez pas Pierre, hein, qui est un peu comment on dit bolos, c'est ça ?
Oui, bolos.
Il est bolos, Pierre.
Ah, non, mais non, je lui en veux pas du tout. Je l'aime beaucoup, donc il y a pas. De
moi aussi, j'adore les profs de danse. En plus, ça me rend fou. Ça a les cuisses dures, hein.
Oh oui,
et
les fesses aussi.
Oh là là.
Je te parlerai de tes miches tout à l'heure. Pour l'instant, je parle que des gambettes.
Direction La Rochelle pour dire bonjour à Jérôme.
Bonjour à vous.
Alors Jérôme, il nous a déjà dit bonjour d'ailleurs parce qu'on vous a bien entendu. Vous avez l'air d'avoir un côté dynamique. Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis restaurateur. Je tiens un petit restaurant à côté de La Rochelle qui s'appelle Au Petit Bouchon. Voilà.
Au Petit Bouchon.
Numéro de téléphone ? Non, c'est bon.
Ouais, non, c'est où exactement si c'est à côté de La Rochelle ?
C'est à Étré. C'est à côté, juste à 2 km de La Rochelle. Voilà.
Ouais, Étré.
Et le plat du jour aujourd'hui, c'est quoi ?
Ah ouais.
Les rognons de bœuf.
Ah, les rognons de Jérôme aujourd'hui, vous pouvez vous les payer au Petit Bouchon.
Les rognons du chef.
Au Porto en plus. Très bien.
Il ment comme il respire ce mec-là.
Pourquoi ?
Parce que c'est pour je connais un peu le menu des principaux restaurants français sur le territoire. Et au Petit Bouchon aujourd'hui, il n'y a pas plus de rognons que de beurre en branche. Alors dis la vérité, c'est quoi le plat du jour ?
Ah si, moi, sur ma carte, il y a des rognons de veau.
Sur ta carte, mais en cuisine.
Ah, t'as dit rognons de bœuf avant.
J'ai des rognons de veau à la carte. Et au petit menu, j'ai des rognons de bœuf.
Bah, mais il n'y a que des rognons alors chez vous ?
Non, c'est une spécialité, on fait les poissons à La Rochelle.
C'est perdu, Jérôme.
Et si on veut un steak frites parce que
bon,
ça
merci, va... au revoir.
Et votre spécialité en dessert, c'est quoi ?
Rognons sol.
Des rognons au chocolat, c'est ça. Quelle horreur.
Non, je fais 10 000 feuilles maison, tout est maison chez moi. Voilà.
Tout est maison, 1000 feuilles maison, parfait. J'aime pas quand c'est maison, moi, parce qu'autrement, autant rester à la maison. Non, c'est vrai.
Ouais. Sabrina. Tu as une petite boîte, s'il te plaît.
On va te la confisquer.
Merci, je me le fais moi-même. Sabrina, Jérôme.
Ça, c'est l'humilité, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ?
Voici la question qui va vous permettre. Attention, là on parle pas de rognon, là on parle de la Cour des Loges, un des plus beaux hôtels, le plus bel hôtel de Lyon. Hôtel 4 étoiles, situé dans le quartier de Vieille Bâtisse Renaissance, au cœur du quartier classé patrimoine de l'UNESCO. C'est le quartier Saint-Jean à Lyon. Magnifique hôtel.
C'est une merveille.
Ah oui, on y est allé ensemble, Pierre, déjà.
On est
allé
ensemble. Pour faire marcher le bidet, il faut être polytechnicien. Je n'ai jamais
vu. Ça, c'est pas faux.
Je n'ai jamais vu un sanitaire aussi compliqué.
Mais pourquoi ?
Parce que c'est high-tech.
Ouais, la douche est compliquée.
Tu sais jamais, mais maintenant, c'est comme ça dans tous les hôtels.
Ah, c'est relou.
Tu sais jamais vers quel côté il faut tourner pour avoir l'eau chaude. De l'eau froide.
On s'est mis à deux avec Laurent pour essayer de voir comment ça marche.
Comment l'eau passe de ou du jet au robinet. C'est dur. C'est incroyable. Ou comment il faut faire pour
tirer la chasse. T'avais pas de problème.
Bah tirer la chasse, y a pas de problème. Voilà.
D'abord, on tire plus la chasse, on appuie sur des boutons. Quelle horreur.
Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ?
Non, il
regrette le temps où on tirait la chasse. Avec...
C'est pour ça que les Français sont pessimistes, parce que tu tires plus la chasse, tu appuies sur un bouton.
Ça te pète le moral. Hein. Ouais. C'est pareil.
Non, parce que des fois, le bouton, ça marche pas.
En tout cas, vous profiterez aussi de la table d'Anthony Bonnet, le grand chef, évidemment, de la Cour des Loges. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est vrai que c'est
je m'entraîne à tirer la chasse, parce que on va être très peu maintenant à savoir qu'il y a encore eu des chasses d'eau.
Mais oui, on doit être très peu. Est-ce que vous avez connu ça ?
Moi, j'ai connu ça dans la petite maison dans la prairie, où elle tirait le truc. Où il y avait la chasse en haut. Et ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de petits balles à chiottes, parce que dit comme la chasse, elle était en haut, l'arrivée dans les chiottes, ça te nettoyait tout. Alors qu'aujourd'hui, avec le truc, on appuie sur notre bouton, on est obligé de prendre la brosse, parce que l'eau n'arrive pas assez vite.
Non, excuse-moi d'avoir quand même un doute historique. Dans la petite maison dans la prairie, au fin fond du Far West, au début du 19e.
Chez Madame Olson, hein, pas chez les gars. Madame Olson, ça va te
souffler. Non, attends.
C'est Madame Olson, c'était le Paul Vermus de l'époque. On allait faire caca chez Madame Olson.
Non, attends.
Il y a autre chose que vous
voudrez comprendre. Dans aucun film, on voit les gens aller au cabinet.
C'est ce que j'allais dire.
Et toi, tu as vu
parce que Laura,
dans la petite maison, dans la prairie, quelqu'un allait aux chiottes.
Parce que Laura avait piégé
piégé la Nelly parce qu'elle la faisait chier à l'école. Alors elle avait trafiqué le truc à chiottes et c'était dans un épisode de la petite maison dans la prairie.
Elle avait
la cuvette allait presque au plafond.
C'est ça, elle avait mis des laxatifs dans sa purée.
Donc ce qui faisait que que l'eau arrivait très très vite et il n'y avait pas besoin de la brosse à chiottes tellement l'eau là, c'était un torrent qui débarquait. La brosse à chiottes, bah oui.
C'est quoi la brosse à chiottes?
Le balai chiottes.
Ah bah,
le balai chiottes, pas la brosse à chiottes.
C'est vraiment un bon
brosse. On dit une brosse à cheveux, un balai à chiottes, c'est pas le contraire.
Et l'épisode où Charlie Ingalls se coupait du bois.
Un week-end à la Cour des Loges pour Sabrina ou Jérôme. Ce sera une chiotte. Autre ambiance, hein, croyez-moi. Luxe et volupté. Et c'est un endroit, mais là je m'en porte garant, magnifique, où on aime descendre quand on va à Lyon. C'est une occasion formidable de profiter de cette jolie ville, parce que pour qui ne connaît pas Lyon, ça vaut le coup d'y passer au moins.
Et on mange bien.
Au moins deux jours. Vous qui avez un restaurant qui s'appelle Au Petit Bouchon, alors là, Jérôme, vous pourrez en profiter des petits bouchons lyonnais, évidemment.
Apprendre à faire la cuisine, tout ça.
Mais pour ça, évidemment, il va falloir répondre à une question, et cette question n'est pas forcément toute simple, puisque je vous demande, comment dit-on little pig en chinois?
Petit cochon?
Comment dit-on? C'est dans l'actualité, hein, autrement je ne vous poserai pas la question, évidemment.
Donc c'est la nid du cochon.
Comment dit-on little pig en chinois?
Comment dit-on petit cochon en chinois?
Comment dit-on little pig en chinois?
Aucun rapport avec Martine Aubry qui est en Chine.
C'est comment on dit grosse pétasse, mais little pig, petit cochon.
Little pig en chinois.
Pourquoi on dirait little pig? C'est quelqu'un qu'on appelle comme ça?
Parce que c'est dans l'actualité.
Donc il y a un problème avec les Chinois?
Non, pas du tout.
Pas avec les cochons?
Non, non, et même on parle de jackpot de little pig dans Libération aujourd'hui.
Est-ce que c'est un dessin animé?
Non.
Est-ce que c'est en rapport avec la politique?
Du tout.
Non, mais comment est-ce qu'on peut dire un nom est-ce qu'on peut dire ce nom-là sans connaître le chinois, justement?
Oui, parce que c'est justement. Allez-y. Hein?
Non. C'est donc l'équivalent français.
Aucun rapport avec Walt Disney.
Naf-naf.
Naf-naf, par exemple.
C'est l'équivalent français de...
Non, c'est pas ça. Ben non, un petit cochon, ça fait...
Mais non, mais là, je vous demande pas le cri du cochon.
Bon, y a un cochon.
Je vous demande comment on dit cochon, petit cochon.
Il y a un chinois qui
82, on dit.
Comment ça, 82?
Bah, c'est le plat numéro 82. Bah non, little pig. 81, c'est soupe aux pousses de bambou.
82, c'est petit cochon.
C'est B34, ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est quelque chose. Alors, c'est pas naf-naf, mais c'est justement un double mot, genre naf-naf.
Joujou?
Pas joujou. Mais qui a connu un énorme succès à Noël.
Oui. Chin-chin.
Oui, oui.
Comment? Zouzoupette.
Comment on dit petit cochon?
Zouzou.
Zouzou, bonne réponse de Sabrina. Zouzou, exactement.
Mais c'est le hamster.
Les hamsters.
Tout avant, c'est des hamsters.
Les hamsters, c'est les tzoutzou pets. Oh. Ça veut dire en chinois tzoutzou, ça veut dire petit cochon, little pig. Voilà.
Écoutez, c'est des menteurs alors les Chinois.
Non.
Ils nous vendent des hamsters et ils appellent ça des cochons.
Fais gaffe à dire, c'est les menteurs, les Chinois, ils sont nombreux. Hein,
Ils sont super optimistes.
Ils tendent bien du chien, ils appellent ça des crevettes.
Hein. Mais c'est souvent. Les doublons, ça veut dire petit alors.
Comment ça?
Parce que si tsu-tsu, ça veut dire petit cochon, moi je sais dire petit pénis en chinois. Ouais. Et ça se dit chin-chin. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils passent devant les boutiques à Felou, les Chinois sont morts de rire, ils se prennent en photo.
C'est
en
pour
fait.
Ça que
parce qu'il y a écrit petite bite sur la truc. C'est pour ça que c'est vrai, c'est une copine chinoise qui me l'a dit. Chaque fois qu'elle passe, ça fait
Et il adore trinquer. Non, mais
petit pénis en chinois, c'est un pléonasme en plus. Donc
ça ne se dit pas.
Non mais mon Dieu,
petit, ça doit être la répétition de mots en fait. Je suis en train de me dire, c'est tsu-tsu, c'est petit cochon.
Vous avez acheté ou vendu des tsu-tsu-pets autour de la table, non? Non, personne. Non.
On a des gueules de vendeurs.
J'achète tous les vendredis, j'achète deux ou trois.
Il y a que Miller qui possède des choses comme ça. Bah c'est chinois, tu me diras. Il a des tsu-tsu, lui, Gérard.
Ah oui.
Mais oui, bah il a tout. Il a quoi comme bestiole? Il a des perroquets.
Mais celui-là, il est en plastique.
Mais ça, c'est des jouets, c'est pas des vrais, Stevie.
Ah, c'est pas des vrais.
Mais non.
Oh putain de
truc. Tu crois qu'il y a eu 200 000 cochons vendus à Noël, toi? T'es beau sous le sapin avec ton cochon, hein, merci, ça fait plaisir. Quoi, ça.
Ah bah j'ai raté un épisode. Hein.
Ouais, pas celui de la chasse d'eau en tout cas.
Un cochon sous le sapin.
C'est pas con.
Tu vois le paquet qui bouge et qui fait. Oui, oui. Putain, je me demande ce que ça peut être, tiens.
T'habites à Paris, t'es pas dans la merde.
Le père de Noël est un cochon.
Sabrina, vous êtes toujours là?
Oui, tout à fait.
Eh bien, vous allez quand vous le voudrez. quitté la Gironde pour Lyon et l'hôtel formidable de la Cour des Loges, hôtel 4 étoiles qui vous accueillera le temps d'un week-end. Deux nuits superbes et un restaurant magnifique tenu par Anthony Bonnet. Vous êtes contente ?
Ah ouais, je suis ravie. Surtout que bon, les zouzous de pète, j'aurais dû le savoir avant puisque j'en ai acheté deux à mes filles.
C'est pas vrai. Et ben voilà.
J'aurais dû le savoir avant.
Et ben oui.
Je peux y aller avec ?
Comment ?
Je peux y aller avec, j'adore la danse.
Ah, non, je suis désolée, j'ai mon mari qui m'accompagnera.
Bon, celui qu'on a surnommé Chin-Chin ou pas ?
On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Alors Paul, quel est le prénom du bébé de Michel Polnareff ? C'est la première question que je vous ai posée tout à l'heure en début d'émission. Vous avez eu plus d'une heure pour trouver la réponse.
Oui, enfin, ce sont des options. Hein. Des options qui me paraissent tout à fait raisonnables.
Ah.
Vous savez que les groupies l'ont déjà surnommé le Polna bébé, ce qui n'est pas un prénom, c'est n'importe quoi. Hein.
Le Polna bébé, oui, non, ça
alors,
c'est pas
bon,
son prénom.
Daniela, la compagne de Polnareff, bah, ils sont en train de buter sur un prénom. Bon, alors qu'est-ce qu'on va donner comme prénom à ce bout de chou ? Alors, les Polnareff ont le choix entre plusieurs prénoms. Soit Léopold. Léopold, c'était le nom du père de Polnareff, qui composait pour Piaf et Mouloudji, entre autres. Deuxième possibilité, Laurent. Ce bébé est né le 28 décembre, à 14h58, heure française. Et le 28 décembre, c'est le jour de la Saint-Innocent. Innocent Polnareff, pourquoi pas, hein ?
Ça, attendez, vous tenez ça d'où, là ? C'est une idée à vous ou c'est une idée à eux ?
C'est une idée, non, bah, j'ai appelé Los Angeles, qu'est-ce que vous croyez ? Alors, sa compagne, Daniela, opterait plutôt, comme on le fait très souvent aux États-Unis, pour Michel J.R.
Pourquoi
on le fait souvent ? Michel J.R. Junior, ça veut dire.
Ouais, mais...
Vous savez, aux États-Unis, lorsqu'on est célèbre, on donne toujours le même prénom et rattaché à Junior.
Mais comment vous connaissez ça ?
Attendez, je ne peux pas vous révéler toutes mes sources, j'ai encore deux choses à vous dire.
Oui.
Et après, j'essaierai de d'éclaircir un peu ce qui...
Il s'appellerait Michel Junior Polnareff, donc.
Voilà. Enfin, il reste deux solutions, Laurent. Mathieu, ça c'est un clin d'œil. Pourquoi Mathieu, Laurent ?
Oui.
Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu.
Ah, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu.
Mais réfléchissez un peu, j'ai l'impression que vous êtes tous endormis là autour de cette table.
Ah ouais, mais enfin, je vois pas pourquoi il appellerait son fils Mathieu sous prétexte qu'il a chanté il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu.
Non, il n'a pas tort.
Il n'y a qu'un cheveu sur sa tête, c'est tout.
Ouais. Mets-toi à sa place, quand on n'a aucune idée de ce qu'il faut répondre, on dit n'importe quoi.
J'ai une dernière possibilité.
Oh, ouais, ouais.
Une dernière possibilité. Vous savez qu'il doit sa carrière à quelqu'un qui était un grand personnage dans cette maison Europe 1, qui était Lucien Boris. Mmh. C'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier, qui lui a donné sa première chance. Pourquoi pas Lucien ? Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, Laurent.
Une chose est sûre, il n'appellera pas Paul. Hein.
T'en sais rien, mon petit bonhomme. Hein. T'en sais rien.
Bon, madame Olson, il va falloir passer à autre chose maintenant. Pourquoi pas les sacs à sapin ? Et là, j'espère que vous avez du lourd et que vous avez bien enquêté sur cette affaire.
Bah, comme d'habitude. Hein. Bon, d'abord, il faut savoir que le sac à sapin, ce n'est pas comme ça une improvisation. Le sac à sapin, c'est un produit qui fête son 18e anniversaire, Laurent. Hein.
18 ans que ça existe.
18 ans, donc, vous voyez que ça c'est vraiment, c'est un vrai triomphe. Il y a un sapin sur 10 qui bénéficie d'un sac à sapin. Ce qui veut dire que cette année, plus de 530 000 sacs à sapin ont été vendus. Ce qui fait une somme de 700 000 euros, je vous signale. Hein. Et 700 000 euros versés à Handicap International.
Tu peux juste refaire ton calcul.
Attendez.
Mon petit Paul,
combien de sapins ont été vendus, vous dites ?
530 000. Il y a 1,30 € par sapin. 530 000 sacs à sapin.
Oui. 1,30 € par sapin.
Voilà, et ça fait grosso modo 700 000 euros pour Handicap International.
Ah bah non, toute la somme va pas à Handicap International.
Non, le prix, c'est 5 euros.
Mais oui, c'est 5 euros.
Il a déjà pris uniquement la part pour Handicap International.
Il y a 1,30 € sur les 5 euros qui va à Handicap International. Maintenant, ce que je peux vous dire, ce sac à sapin, je vous explique.
Attendez, moi, ce que je veux savoir, c'est où vont les, on va dire, 3,70 € qui restent.
Eh oui,
c'est ça qui m'intéresse.
D'abord, il y a la fabrication.
Oui,
il faut bien acheter les produits pour le faire.
Ouais, mais d'accord.
Alors, ces produits biodégradables qui sont fabriqués à base de céréales sans OGM sont fabriqués par des handicapés. Ça, c'est la première chose. Ah, donc, on paye les produits, on paye les.
Mais c'est moins cher normalement.
Ben non, c'est plus cher.
Non.
Attendez.
Quand t'emploies des handicapés dans ton
entreprise, c'est plus cher.
Ça dépend le coût de fabrication, ces handicapés chinois ou pas ?
Non, une seconde. Une seconde. Et troisièmement, et ce qu'il y a d'important, il y a un certain nombre de grandes surfaces. C'est vendu dans toutes les grandes surfaces, les maisons de bricolage, les pépiniéristes, les fleuristes.
Ouais.
Nombre de grandes surfaces donnent même leurs bénéfices à Handicap International.
Moi, ce que je veux savoir, c'est les 3,70 € par sapin, ouais. par sac à sapin, où ils vont? C'est ça que je veux savoir.
5 € - 1,70 €, 3,30 fois 48, 57 plus 8, 65, le compte est bon. Alors, à partir de ce moment-là, je...
Vous me posiez la question, comment arrive-t-il à faire cet entrisme?
Oui.
Parce qu'on parlait du sac à sapin.
Ça, partout. Déjà, voilà, une autre bonne question.
Voilà. Alors, bon, faut savoir que le service de communication d'Handicap International, qui, je vous le rappelle, a eu le prix Nobel en 1995.
Oh, très bien,
quand même. Eh bien, il y a un service de communication, il y a une jeune femme qui s'appelle Yasmine, qui est Miss Sac à Sapin, qui est responsable de cette opération. Mais oui, elle est Miss Sac à Sapin.
Mais donnez-nous son téléphone, parce que je trouve que, qu'on soit clair là-dessus, j'ai aucun soupçon, mais il faut au moins juste qu'on nous explique, c'est tout ce qu'on veut savoir. Alors,
pourquoi c'est si cher?
Qu'on l'appelle, cette dame, alors donnez son téléphone. Allô?
Allô.
Oui, bonjour Yasmine. C'est Laurent Ruquier à l'appareil avec toute l'équipe d'On va se gêner. Comme Paul Vermus est incapable de nous expliquer comment ça se passe pour l'histoire des sacs à sapin, je suis sûr que vous allez savoir nous dire. Parce que là, on se pose.
Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à expliquer?
Il n'arrive pas à nous expliquer. Parce que nous, on est évidemment très heureux qu'il y ait 1,30 € sur les 5 €. C'est bien ça, le prix du sac à sapin, Handicap International. On est très heureux qu'il y ait 700 000 € qui aillent à Handicap International. Ce qu'on veut savoir, c'est les 3,70 € qui restent. À quoi ça correspond? Voilà.
Et
où va cet
argent? Donc en fait, votre question, c'est la différence entre ce qui est récolté par l'association et le prix de vente du sac à sapin.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Exactement.
Alors, je vais vous passer Sarah Ogier qui va vous donner des détails.
C'est gentil, merci.
Voilà,
c'est Geneviève de Fontenay qui s'occupe de vous parce qu'on la cherche là depuis quelques mois.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour monsieur. C'est Laurent Ruquier et toute l'équipe d'On va se gêner. Soyons clairs, on n'a aucun soupçon. On veut juste de l'information, savoir où passe la différence entre le euro 30 qui va à l'association Handicap International et le prix du sac à sapin qui est au total, je crois, de 5 €.
Prix de vente.
C'est prix de vente, c'est-à-dire qu'en gros, 3,70 €, ça correspond à quoi par sac à sapin? C'est ça qu'on voudrait savoir.
Alors, vous me prenez un peu de cours parce que la structure de coût, en fait, elle représente tous les coûts de fabrication et de conditionnement. Donc, il y a par exemple l'achat d'une matière première qui est donc faite à base de céréales à un industriel du secteur. Il y a ensuite le conditionnement, la production de tous les emballages, etc. Okay. Le conditionnement dans un centre d'aide par le travail. Et ensuite les activités modestes liées à la promotion.
D'accord, ça coûte combien?
Ça coûte combien ça?
Il voulait que je vous donne la couleur.
Non, c'est fabriqué où? En France?
C'est fabriqué en France. L'industriel en question, je ne ferai pas sa publicité, mais enfin, c'est un leader du secteur, si vous voulez, un céréalier. C'est conditionné dans la Loire, à Mornant notamment, dans un centre d'aide par le travail, encore une fois, où travaille une vingtaine de personnes handicapées. Et la diffusion est faite.
Ils sont très bien payés, donc, j'espère.
Oui, enfin, normalement.
Non, mais juste combien ça coûte? C'est quoi les coûts de fabrication et de conditionnement? Combien ça représente sur les 3,70 €?
En fait, par rapport à la question des bénéfices que vous posiez, effectivement, tous les différents intervenants de la chaîne sont payés normalement. Comme vous le soulignez, c'est un produit qui est fabriqué en France. Il y a quand même beaucoup de partenariats qui font que les gens ont tendance, effectivement, à réduire leurs marges. Notamment au niveau de la diffusion dans la grande distribution. Il y a effectivement une TVA qui est de 0,82 € et les 2,88 € restants correspondent effectivement à l'achat de matières premières, au conditionnement et à commercialisation.
C'est la peinture or qui doit coûter très très cher.
Non, monsieur, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a aucun expert comptable, aucun commissaire aux comptes qui dans la maison.
C'est dit.
Voilà combien me revient un sac.
Ce qu'on va faire, c'est quoi? Parce que on va pas lancer. On a posé une question, vous voudrez une réponse. On va vous laisser le temps. Demain, vous nous donnez la réponse dans l'émission.
Il n'y a aucun problème.
Voilà, parce que vraiment, on veut savoir ça, et on vous remercie, et Paul, il faudra mieux enquêter la prochaine fois.
Hein. Non, ce qu'il a dit, c'est exactement ce que j'ai dit. Alors, soyez gentil de ne pas me mettre en cause dans cette affaire. Hein. J'avais entièrement raison. Il a dit la même chose, mais au lieu de 2 minutes, il en a mis 5 minutes. Alors,
lui, il est obligé de répondre.
C'est exactement ce que je vous ai dit. En tous les cas, je voulais vous dire qu'ils sont très doués pour la communication. Voilà,
ils ont
60 émissions gratuites, plus 60...
Encore, il va répéter ça. On ne demande pas le résultat.
Ça suffit.
Allez, une dernière enquête plus ludique, cher Paul. Édouard Baird, choisi pour jouer Astérix. Qui a fait ce choix? Les producteurs, le réalisateur?
Écoutez, c'est très simple. Excite Europa Corp, la société de Luc Besson. Excite La Petite Reine, qui est la société de production de Thomas Langman. Pourquoi? Parce que le troisième Astérix, Astérix au Géo, n'a pas très très bien marché. Et c'est finalement Fidélité Film et les producteurs Olivier Delbosque et Marc Missonnier. Alors c'est pas n'importe qui, puisque ils ont produit quand même un certain nombre de films à succès, hein, qui ont demandé l'autorisation à Albert Uderzo et Anne Goscinny, car sans leur aval, rien ne se fait. Alors Uderzo et Anne Goscinny ont dit OK pour un quatrième volet, et c'est comme ça que Laurent Tirard vient d'être désigné pour faire cette histoire, quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Et il succède à Gidi, à Chabat et à Langman dans la réalisation.
Hein. Ça, très bien. Mais Édouard Baird, le choix d'Édouard Baird pour Astérix.
Bon, écoutez, il y a eu beaucoup de noms ont été pressentis ces 6 derniers mois. Vous aviez parlé tout à l'heure de Laurent Deutsch et vous aviez raison. Mais parmi les autres noms, on a pensé un moment à faire revenir Cornillac. Mais on s'est dit non, le précédent film n'a pas marché, c'est pas la peine. On a pensé à Danny Boone. On a pensé à Paul Vord. On a pensé à des personnages un peu secs. Hein. On a pensé à Garcia. On a même pensé à Dubosc qui avait joué dans d'autres rôles dans la série Astérix.
Il est pas mal, Dubosc.
Il est trop grand.
Voilà. Alors, et finalement, ils en sont venus à Édouard. Et ça a été d'un commun accord parce que Albert Uderzo et Anne Goscinny donnent leur avis là-dessus. Alors, faut savoir aussi, Laurent, qu'au départ, il était question que Depardieu ne le fasse pas. Hein.
Non.
Il était question que Depardieu le fasse pas. Et il a fini par donner son accord définitif. Mais quand il a dit que je le ferais peut-être pas, on a songé à un moment à François-Xavier de Maison.
Ils avaient pensé à Maria Carré pour Obélix aussi.
et à Jean Reno. Et à Jean Reno, voilà. Sur ce, c'est une maison de production solide hein, qui fait ce film. Hein.
Ouais, très bien. On s'en fout, c'était pas la question.
Non, c'est pas la question.
La conclusion qui n'a rien
mais
à voir.
Est-ce que c'est la même maison qui fait les sacs
les sacs à sapin.
Parce que, est-ce qu'ils gagnent beaucoup d'argent ou pas?
Bah, oui, ils sont
payés. Ils ont 60 émissions de télévision, tiens, attention.
C'est une maison solide. Hein.
Quand on a produit des films comme Le Petit Nicolas, comme Podium et comme 8 femmes, par exemple.
On s'y connaît.
On peut produire Astérix, on connaît ce métier. Ouais. Et puisqu'on est dans Astérix, je vais vous donner une autre information que vous n'avez peut-être pas.
Je vous en prie, Paul.
Bon, vous êtes gentil, Laurent. Vous connaissez Alexandre Astier?
Oui, ouais. Bien sûr.
Eh bien, c'est lui qui va réaliser le prochain film d'animation d'Astérix, un dessin animé, Le Domaine des Dieux en 3D, qui sortira l'année prochaine.
Quelle info! Ça, c'était pas la question,
mais... Ben non, c'est pas la question, mais je pensais que c'était intéressant d'élargir un peu
génial.
Le
sujet. Génial.
Tel que tu me vois, je me roule par terre, tellement que ça...
Tu sais comment on appelle son surnom, hein, à Vermus à Europe 1?
Pirouette?
Non, handicap international.
Je crois qu'on va se quitter là.
Écoute,
ce début d'année, c'est trop pour moi.
Alors on va te reverser 1,30€ à la fin de l'année aussi.
Allez, on vous embrasse. Notre invité d'honneur est arrivé. Il est temps de passer, évidemment, au moment où il s'agit de l'identifier. À tout de suite.
Je vous rappelle qu'à l'occasion du Festival du film et de comédie de l'Alpe d'Huez, Europe 1 vous propose de gagner un séjour pour 2 personnes dans cette superbe station de 18 au 23 janvier. Hébergement, location, forfait de ski et transport sont évidemment inclus. Mais vous pourrez également assister aux émissions de Laurent Ruquier les 20 et 21 janvier. Vous assisterez aussi à la cérémonie d'ouverture du festival ainsi qu'aux projections. Alors pour cela, si cela vous intéresse, inscrivez-vous dès à présent. Faites vite, appelez-nous au 39 21 ou bien envoyez par SMS le mot Europe 1 au 7 21 21. Je vous souhaite bonne chance à tous. On ne perd pas de temps. On retourne du côté du studio Merlin. Il est temps d'identifier qui se cache dans la loge d'honneur.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Ah, on a perdu un peu de temps, on est en retard avec notre invité d'honneur, on a perdu un peu de temps avec cette histoire de sac.
Oui, mais ça vaut le coup.
Mais ça vaut le coup parce que de toute façon, voilà, il faut qu'il y ait pas le moindre doute sur ce genre de cause, parce que franchement, Dieu sait que pendant 15 jours, on a vu ça sur toutes les chaînes de télévision, et d'habitude, on est très clair sur ça.
Mais je mets pas de plastique, moi. Je mets de l'organza sous mon sapin. De la soie, de l'organza, ça fait carrément plus chic, hein.
Ça n'intéresse peut-être pas notre invité qui est dans la loge d'honneur et qui patiente. Bonjour, invité d'honneur.
Bonjour.
bonjour. La voix est pas mal déformée, n'en dites pas trop surtout, oui et non suffiront évidemment pour répondre aux questions de mes camarades. Alors, vous connaissez le principe.
Bonjour invité d'honneur, est-ce que vous savez où va l'argent du Téléthon? On continue, on est lancé. Hein.
Oui, oui, répond notre invité.
Ah, est-ce que vous êtes une femme?
Blonde?
Est-ce que vous avez acheté un sac à sapin? Oh. Tu vois,
est-ce que vous êtes docteur? Non, très bien, merci beaucoup ma grande. Est-ce que vous êtes grande?
Est-ce que vous êtes mariée?
Citadine?
Enfant?
Plusieurs?
Ménopause?
Non, c'est pas possible.
Oh là là. Ça se trouve, on a Michel Alliomari, tu vois.
Ah, oh bah, elle aurait répondu oui.
Ah oh non.
Ah non, vous êtes horrible. Attends.
Oh la classe.
Donc, elle est mariée, elle a des enfants. Est-ce que vous êtes partie pour les vacances de Noël loin?
Mais est-ce que vous auriez les moyens de partir loin pour les vacances de Noël?
Oui.
C'est ça qui m'intéresse avant de vous faire la cour.
Oui, moi je peux vous répondre, oui.
Ah. C'est pour savoir si on l'a vu dans les... Est-ce qu'on vous a vu dans les journaux People avec vos enfants ou un conjoint quelquefois?
Non.
Vous avez été parfois piégé par les paparazzi?
Une fois.
Une fois.
Mmh. Vous êtes une industrielle?
Non.
Vous êtes une gentille fille ou pas?
Oui.
Oui, bien sûr, elle va te répondre non, je suis une grosse salope.
Non, pour aider le poids à dire, c'est pas le mot qui convient.
Vous êtes une héritière?
Non.
Ah, ça y est.
Pourquoi une héritière?
Une héritière, c'est Bettencourt.
La vie. Moi, j'aurais aimé Françoise Meyers. Meyers.
Est-ce que vous avez d'action politique?
Non.
Est-ce qu'on connaît vos convictions politiques?
Non.
Voici un premier indice, car je vous vois pas mal sécher.
Ouais.
Jean-François Copé, bonjour.
Bonjour.
Qui a été sanctionné hier par les électeurs? Le président de la République à cause de son style et de sa gouvernance? Le gouvernement à cause de la politique menée? Ou l'UMP à cause de ses valeurs?
Écoutez, pour moi, c'est l'ensemble de la majorité qui a subi une défaite. Je ne suis pas pour habitude d'aller chercher des boucs émissaires. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens. C'est nous qui avons perdu. On part à une campagne électorale. On gagne, on est les gagnants. On perd, on est les perdants.
Voilà un premier indice. Je ne sais pas si ça vous aide. Oui. Vous l'avez compris, vous, cet indice, évidemment.
Oui.
Vous êtes marié à un homme politique?
Non.
Un journaliste?
Non.
Est-ce que vous avez participé au festival de mots organisé tous les ans par Jean-François Copé?
Non.
Votre père est barbier?
Quoi?
C'était pas Christophe Barbier qu'on
avait entendu? C'était barbier. Si,
oh,
je suis
les jeux de mots. Votre père
c'est
est barbier.
Bah non, mais je cherche l'indice par rapport à la chanson.
C'était pas une chanson. Il faut faire attention au nom maintenant avec des jeux de mots.
Oh, c'est possible.
Hein. C'est Christophe Barbier qui interviewait.
Votre père est barbier, je veux bien. Moi.
Le lien est plus avec l'homme politique.
Avec Jean-François Copé donc.
Qu'avec l'intervieweur.
Ah d'accord.
Votre père est coupé?
Non.
Vous avez un...
Vous êtes gynécologue?
Non.
Vous portez... Comme le père de Jean-François Copé? Ah, non, 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 il n'est pas médecin. Gynécologue.
Non, il est médecin, son père.
Et comédien aussi.
Est-ce que vous avez accouché récemment?
Non.
Votre papa s'appelle Jean-François?
Non.
Est-ce que vous chantez?
Non.
Vous êtes comédienne?
Non.
Oui.
Ouais.
Elle est comédienne. Ah ben bah, voilà, on avance.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes française ou quand même pas tout à fait? Enfin, il y a des soucis de papier. Moi, je vois des soucis de papier.
est-ce que vous avez...
Bah, laisse-la répondre. Est-ce que vous êtes française ou...
Est-ce que vous avez joué avec le père de Jean-François Copé qui a joué...
au cinéma.
Et à la télévision?
Non.
Il joue dans Plus belle la vie, hein, si je dis
ah
pas
bon
de
bien,
il me semble.
Vous voulez un deuxième indice?
Ouais.
Le désir naît dans son sillage, monte et grandit, tourne et voyage, jour tamisé, parfois troublant, l'orchestre part en rythme lent, dans ses yeux verts passe un regret, atteint le cœur, nul ne le sait.
Vous connaissez cette chanson, Pierre?
Non.
Ah, c'est dommage, parce que ça vous aurait bien aidé si vous aviez eu le titre de cette chanson.
Non, parce que je voudrais entendre le refrain.
Ah ben oui, mais non. Car ce serait trop facile.
Vous avez...
C'est le prénom de notre invité, le refrain?
Non, 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 non. Mais c'est un bon indice, évidemment, le titre de cette chanson.
Est-ce que votre mari est célèbre?
Non.
Vous-même, on vous reconnaît dans la rue?
Oh oui, on doit la reconnaître beaucoup même, je pense.
Ah, vous avez un look un peu particulier?
Oui.
Oui.
Il n'a pas dit ça non plus.
Non, je sais pas, j'en sais rien, je déduis.
On la reconnaît beaucoup dans la rue.
Bah oui, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien.
Mais quand vous dites française, vous avez des origines de...
Ouais, moi aussi. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez un nom à consonance française?
Putain, les deux de la Gestapo, là.
Non, pas un nom à consonance française.
Ah ben voilà, ben je sais qui c'est.
Si vous êtes belge, vous n'êtes pas française, hein.
Elle est bègue. Est-ce que vous êtes drôle?
Oh, la question.
Anne Romanoff. Non, c'est pas elle.
Ben oui.
Alors, est-ce que vous êtes drôle?
Oui.
Ben c'est Anne Romanoff.
Est-ce que vous êtes Anne Romanoff?
Oui.
Oui, c'est Anne Romanoff qui va nous rejoindre.
Profitez d'On va gêner sur Europe 1 jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. L'invité d'honneur a été découverte.
Anne Romanoff, naturellement. C'est même le titre de son DVD. Elle est toujours retournée avec son spectacle. Anne Romanoff qui a très très froid. Elle
mais
garde
oui,
son...
Non, mais j'étais dans une pièce climatisée.
Où il fait très froid.
Ouais.
Et là maintenant?
Elle a gardé son sac à sapin autour d'elle.
Non, mais je suis d'un tempérament frileux. Il fait super froid aujourd'hui. T'as le froid qui te pénètre les os et tout. Si
les os.
Comment vous avez trouvé Anne Romanoff, Pierre Ménichou?
Rien du tout.
Parce qu'on a dit quelqu'un de drôle, j'ai dit Anne Romanoff.
Bah oui,
et Jean-François Copé, voyez le lien alors?
Oui, ils étaient à Sciences Po ensemble.
Ah, bah comment vous savez ça, vous alors?
Et la question sur le téléthon, elle était pas bonne?
Ah oui, mais ça, j'ai eu peur tout de suite quand vous lui avez demandé, effectivement.
Par contre, la chanson, j'ai compris que dalle, moi.
Ah ben, alors la chanson, on la réécoute.
Le désir naît dans son sillage, monte et grandit, tourne et voyage, jour tamisé, parfois troublant, l'orchestre part en rythme lent, dans ses yeux verts, passe un regret, atteint le cœur, nul ne le sait.
Ça s'appelle La femme en rouge, cette chanson.
Oh.
Ah, elle,
ah oui, comme elle.
Bah oui.
Oh, dis donc, ça tombe bien.
Eh oui, eh oui. Vous êtes toujours en rouge sur scène, hein, encore aujourd'hui?
Ah, toujours.
Le haut, parce que le bas.
Ouais, quoi?
Ben non, parce que quand t'es un peu, je suis un peu potelé, et c'est mieux de mettre du noir en bas.
En revanche, t'as changé ta couleur de cheveux, Anne.
Ouais.
Alors pourquoi t'as... Parce qu'ils étaient vraiment rouges avant.
Bah oui, mais c'était trop.
Et bah pourquoi tu t'en es rendu compte que...
Non, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est que, genre, en 98 ou 2000, j'ai eu une metteur en scène québécoise qui m'a dit « Mais Anne, tu sais, là, t'es folle à l'intérieur, puis t'es trop sage à l'extérieur. Faut que t'aies un look plus fou. » Et donc, je suis partie dans un truc un peu délire. Donc, j'avais les cheveux comme ça. Après, je me suis fait... À un moment, j'avais les cheveux de toutes les couleurs. Orange, bleu, vert. Et je trouvais ça joli parce que à un moment, tu te rends plus compte, en fait. Et que maintenant, quand je revois des vidéos, je me dis « Mais c'est pas... Mon Dieu, c'est
dur ce métier. Hein,
Anne Romanoff est en tournée avec son spectacle. Elle sort un DVD d'Anne, naturellement. Combien de fois vous l'avez joué, ce spectacle, déjà?
En fait, c'est pas un vrai spectacle, ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai joué un spectacle, et ça, c'est un espèce de truc.
On peut aller le voir quand même.
Ah, oui. Non, mais c'est un truc intermédiaire entre l'ancien et le nouveau spectacle. C'est ça que je veux dire.
Non, mais tu sais à quoi je pense.
Non, allez-y.
Quand on a dit, est-ce que vous avez un physique particulier? Ça me repense chaque fois le truc de Marie-Claire où on s'est fait avoir les deux.
C'est quoi ça?
C'était un truc où on a été humilié.
On a été humilié
dans les grandes largeurs. Bah, alors moi je connaissais une fille à Marie-Claire qui m'a dit, enfin non, qui m'a appelé. Anne, je t'appelle parce qu'on voudrait faire une page sur toi, sur Marie-Claire. On veut faire une page sur les femmes qui ont un physique hors norme.
Non, pas hors norme. C'était intéressant.
Ouais, on a pensé
avec
à toi.
Une personnalité. D'accord.
Donc moi je vais à la séance photo et tout. Et puis là le mec il éteint la lumière. D'accord. Et puis j'avais pris un maquilleur et le mec me dit c'est pas la peine de vous maquiller. Et il y avait un coiffeur et le mec me dit c'est pas la peine pour la photo qu'on va faire. J'ai dit mais si quand même. Et après le mec il se couche par terre pour prendre la photo. C'est-à-dire déjà de face je suis moyenne mais par en dessous, t'imagines? Par en dessous dans le noir, c'était juste Quasimodo quoi. Même une fille super belle.
Et à Christine, ils ont fait pareil.
Non, oui.
Non, on découvre dans et le Marie-Claire un mois après les moches. Attends. Qu'est-ce que c'était?
C'est moche qui...
C'est femmes moches qu'on réussit quand même. Et moi, on aurait dit cochise, je vous jure. Et cette saleté d'Anne, elle a dit, moi je m'en fous, mes copines m'ont dit de toutes les moches, t'es la meilleure.
C'est qui les autres?
Bah, y a
ah oui.
des, euh...
Il y avait Rossi des Palmas. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'au départ, on nous a fait miroiter des noms de stars.
Oui.
Il y aura Rossi des Palmas. Moi, je dis, oh ouais, évidemment. Almodovar, tu vois, ça te fait rêver, quoi.
Oui.
Et c'était une pleine page en plus. C'était pas une petite photo. Hein.
Il y avait, on était 10 filles.
Et moi, ça faisait 10 ans que je rêvais d'avoir un article dans Marie-Claire.
On était 10 filles plus moches les unes que les autres. Avec ses.
En noir et blanc.
En noir et blanc. Pas maquillée, pas coiffée. Ouais. Mais c'était un tordu pervers, le mec qui nous avait fait ça. Et avec.
Et la journaliste
et,
aussi.
Et
hein.
la journaliste qui nous
D'ailleurs,
avait.
D'ailleurs, tu sais que j'ai mangé avec elle après. La journaliste, elle m'a dit, oh, tout à l'heure, il y a Christine Bravo, elle est pas vraiment au courant de ce qui va lui arriver.
Mais, et toi, t'étais au courant?
Bah, j'étais
au courant. Arrivée, ces moches qui ont réussi.
Qui étaient les autres? On veut savoir, alors, les autres.
Apparemment, Anne, elle a été payée au moins, Christine.
Non, mais ce que, en même temps, c'est vrai qu'ils allaient pas nous dire, on va faire un article sur les moches, on n'aurait pas voulu.
Ouais,
non,
ça aurait été plus, ça aurait été plus honnête quand même, Anne Romanoff, qui, en tout cas, est sur scène depuis plus de 20 ans maintenant, et qui sera aussi sur la scène de Bobino, on peut l'annoncer, avec tous les humoristes d'Europe 1. Vous y êtes, Fabrice, d'ailleurs, vendredi soir à Bobino?
Non, je serai au Maroc.
Ah, zut alors! Bah alors, comment on va faire?
Bah oui.
Vous pouvez citer les camarades d'Europe 1 qui seront avec nous, puisque j'y serai.
Nicolas Canteloup, Laurent Ruquier, Guy Carlier, Mathieu Madénian, Willy. Et
Gaspard,
Titoff.
Et Titoff.
Voilà.
Il n'y a pas que des humoristes.
Et c'est retransmis.
Il y aura les animateurs d'Europe 1 aussi, je crois.
Et c'est retransmis en direct sur l'antenne vendredi soir. Pierre, vous voulez venir à Bobino vendredi et faire un petit truc sur scène?
Je ne peux pas parce que j'ai le feu l'Olympia, moi, vendredi.
Ah ouais?
Non, je ne peux pas.
Oh, la détresse.
Je vous ai dérangé, là, Pierre, je sens.
Tu pensais à quoi, Pierrot? C'est pas
justement
grave.
Justement que j'avais une émission de télé que j'avais déphasée parce que je vais... Ah non, c'est le 14. Le 7, je sais pas. Non, j'ai pas trop envie.
Anne Romanoff à Bobino, vendredi soir et en tournée à travers la France. De nombreuses dates de tournée, Anne?
Bah, ce soir à Clermont-Ferrand.
Non.
Bah,
c'est
oui.
La ville la plus froide de France. Il faisait moins 10. J'ai entendu, il faisait moins 10 cette nuit.
Moi, je regarde les dates, mais c'est hallucinant quand même, votre tournée. Bon, on a tendance à me poser cette question régulièrement. Mais comment vous faites pour faire tout ce que vous faites? Mais vous, je crois que vous battez. Alors là, ça y est, votre ambition, c'était de devenir Laurent Ruquier, un Romain.
Non, tu crois ça, pas du tout.
Ah non, mais c'est incroyable, mais regardez tout. Non, mais c'est, j'ai jamais vu autant de dates de tournée pour
un
spectacle.
J'aime bien être sur scène, je trouve. Enfin, je m'éclate sur scène.
Ouais,
il y en a plus que Gérard Miller?
Ah bah, beaucoup plus. À Metz, le 6 janvier, au Mans ensuite.
Tu les salueras pour moi.
Au Mans, chez Stevie, le 11 janvier. On pourrait avoir des places pour la maman de Stevie, Anne.
Ah bah oui.
Merci, Anne.
Oh, dis donc.
Elle est venue voir Michel Bernier, elle a adoré.
Elle a adoré.
Alors, elle va adorer Anne Romanoff aussi, il n'y a aucune raison. Saint-Germain-en-Laye, le 14 janvier. Troyes, le 13 janvier. Chartres, Lausanne, Corbeil-Essonne, Courbevoie, Mérignac. Non, je me pose la question, parce qu'entre tout ça, il y a évidemment Europe 1, mais il y a aussi Michel Drucker. Vous y êtes toujours chez Michel Drucker ou
oui,
pas?
Oui, mais moins souvent.
Ah, moins souvent?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que. Non, parce que tous les 15 jours, je trouvais ça trop dur comme rythme, justement, trop de stress. Parce qu'il faut écrire et c'est compliqué. Et puis, je trouve que c'est plus facile pour un imitateur de parler de l'actualité que, je sais pas.
Encore que vous aviez trouvé un personnage avec.
Non, mais j'ai. Oui, mais.
Avec cette fille du bistrot qui.
Ouais, mais en même temps, il y a un moment.
Le sac à sapin, on nous dit pas tout.
Oui, mais si tu veux.
T'en as fait le tour un peu.
Non, c'est pas ça, mais je trouve qu'à un moment, une fois que tu dis que Sarkozy, il est énervé, que.
Ouais.
Il y a toujours les mêmes poncifs, en fait. Et il y a le politiquement correct du politiquement incorrect. C'est-à-dire que tout le monde dit les mêmes choses. Et quand tu essaies de trouver des nouveaux personnages, ça fait pas rire les gens. Par exemple, le monde bourg, ben, enfin.
Pourquoi tu fais pas des trucs sur les juifs, par exemple?
C'est ça ton idée?
C'est ce qu'on appelle l'humour noir.
Anne Romanoff à Bobino vendredi soir avec Europe 1 et en tournée à travers la France. La tournée, c'est pendant tout le semestre qui vient là. Vous n'arrêtez pas jusqu'à l'été prochain. Et puis, il y a de DVD Anne, naturellement.
Laurent Ruquier, toute sa bande.
On va se gêner sur Europe 1.
Pierre Bénichou, Stevie, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak sont gênés avec Laurent Ruquier et l'invité d'honneur qui les a rejoints.
Anne Romanoff est notre invitée jusqu'à 18h. Et pendant la pub, Christine disait que ce qu'il avait mis sur la voix, c'était le nom à consonance étrangère, mais oui, Roumanoff.
Mais oui, Roumanoff. Alors c'est
ça vient d'où d'ailleurs
Ruskov,
ce nom,
c'est russe.
Anne.
Non, c'est roumain.
C'est pas roumain, tu vois. Toi.
Mais tu attends.
C'est russe.
Mais t'as
oui,
vu
c'est russe.
Et
c'est russe. Il y a eu en trop en fait.
C'est Romanov qui est russe.
Mais non,
Roumanov aussi.
Roumanov, c'est un nom super. Romanov, c'est comme Dupont en russe.
C'est comme Smirnov et tous les neufs. Eristov. Christophe. Le Pont-Neuf.
En fait, je suis donc j'ai deux grands-parents russes et du coup et j'ai une grand-mère du Maroc en fait.
Ah ouais, t'es marocaine aussi.
Ma grand-mère, ouais.
Pierre Bénichoux, souvent yes, vous parlez d'Anne Roumanoff dans cette émission.
Il paraît.
Oui, oui, oui.
J'aimerais avoir des précisions là-dessus, Pierre. C'est pas tout déblatéré dans les gens derrière leur dos. Que tu as écrit sur Twitter que je ne te disais pas bonjour.
Attends, pardon, excuse-moi deux secondes. J'interromps l'émission, il écrit sur Twitter.
C'est impossible.
En fait, j'ai fait une émission là à Noël. Il y a une auditrice. Attends, il y a une auditrice qui a appelé mon émission. Elle me dit, je comprends pas pourquoi Pierre Bénichoux dit du mal de vous. Je dis, ah, je savais pas. Elle me dit, il dit que vous dites pas bonjour. Alors j'ai fait une recherche sur Internet parce que tu trouves tout. Et là, je vois le compte Twitter de Pierre Bénichoux où il y a 60 abonnés. Donc il y a pas beaucoup de gens qui le suivent en fait.
Je sais même pas ce que c'est Twitter.
Ah bah écoute, t'as écrit.
J'ai pas écrit, j'ai dit dans cette émission comment vous trouvez Anne Roumanoff depuis qu'elle est vedette. J'ai dit depuis qu'elle est vedette. Point d'interrogation. Ah oui. J'oubliais qu'elle était vedette depuis le temps qu'elle s'échine. Et j'ai dit, elle a toujours une façon aussi charmante de ne pas dire bonjour. Voilà. Ah ouais. C'est tout ce que j'ai dit.
Tu t'es toujours dit bonjour.
Tu m'as jamais dit bonjour et je m'en fous.
Et non seulement, alors.
Tu ne dis pas bonjour avec autant de.
C'est
autant
ça, tu voudrais que je me prosterne devant toi, un truc
oui,
comme ça.
Oui, absolument, c'est tout ce que tu mérites.
Parce qu'en plus, on ne veut pas te louper quand tu arrives quelque part, tu fais du bruit. Quand on t'embrasse, tu sens l'eau de toilette. Donc je peux te dire que je te dis bonjour plein de fois dans ma vie et que ça sentait.
Ah, quand je sens l'eau de toilette, il vaut mieux ça que le sentir la merde. Non, pardon.
Pour vous dire un truc, Anne Roumanoff, c'est que Pierre Bénichoux n'aime pas les humoristes femmes de toute façon. Il n'y a aucune humoriste femme qui a grâce à ses
yeux. Si, Elisabeth Buffet.
Elle a le sommet pour lui.
Je lui ai dit tellement de mal d'elle devant elle que je lui ai envoyé des fleurs après.
C'est pas vrai. Ouais. Ah, bah alors vous allez pouvoir faire la même chose avec Anne.
Non,
alors.
Anne, elle sait que je l'aime. En plus, on a fait les émissions ensemble et tout. Et en plus, elle est de ma famille d'humour. Donc, je ne pourrais pas ne pas l'aimer.
Mais c'est vrai
qu'elle bagasse un peu depuis qu'elle est vedette. Voilà. C'est peut-être de la jalousie.
Alors c'est vrai que quand même, il a raison Pierre Bénichoux après tout. Posons les vraies questions. Ça fait maintenant quoi, 2 ans? Vous êtes devenu une grosse. Avant vous étiez
une grosse. Super. pour Marie-Claire, ça va être génial. Ils refont un sujet dans Marie-Claire.
C'est la tartiflette.
Mais en non. plus, j'ai grossi. Pas le moment d'en
moi
parler.
Moi qui connais Anne depuis 20 ans maintenant, 20 ans, vous rendez compte comme le temps passe, puisqu'on a fait Rien à cirer pendant plus de 5 ans, en 5 ans ensemble sur France Inter. C'était il y a 20 ans. Et Anne Roumanoff a toujours eu beaucoup de succès. Elle le sait, je l'ai souvent dit et répété à juste raison, parce que autrement, je n'aurais
c'est
pas
vrai,
engagé et gardé pendant toutes ces années. Elle a toujours été très drôle et je l'ai toujours trouvé très drôle. Elle avait énormément de succès. Elle remplissait énormément de salles. Mais elle n'avait pas la reconnaissance du métier et de la presse. Or, depuis 2 ans, c'est devenu une vedette et elle a la reconnaissance du métier et de la presse. C'est vrai, Anne Roumanoff. Est-ce que c'est l'effet Drucker, alors?
Oui, je pense. Ben oui.
Pas la couleur de cheveux plutôt.
C'est peut-être dû à ce qu'elle est.
C'est peut-être j'ai eu les gens à l'usure aussi. À un moment.
Non. Mais,
quel a été le déclic pour vous?
Si, je pense que c'est les sketchs chez Michel Drucker. Oui, tout d'un coup les gens ont vu différemment et puis tout d'un coup les gens ont voulu dire que j'étais une humoriste politique alors que je dirais Guy Bedos ou Stéphane Guillon sont des humoristes politiques. Moi je prétends pas faire ça quoi. Je fais un peu d'humour politique mais c'est pas mon identité humoriste politique.
Alors est-ce que parce que le paradoxe c'est ça. Je vous pose la question vraiment très naïvement. Il y a aucune arrière-pensée sous-entendue derrière. Vous bourriez les salles, vous avez rempli les salles énormément avant que vous soyez, connu. Non, pas connu. Avant que les journaux le disent et le reconnaissent. Combien d'années vous avez fait Bobino, par exemple, à une époque?
J'ai fait 4 ans.
4 ans Bobino. Et il y avait quasi pas. C'est pas qu'il y avait pas un article, mais en tout cas, on ne reconnaissait pas le talent et le succès d'Anne Roumanoff à sa juste valeur. Maintenant que vous êtes une grosse vedette, est-ce que les salles sont tout aussi remplies qu'avant? C'est une vraie question.
Ah oui, bah oui.
Oui. Plus encore?
Ben, ça se remplit plus vite. Enfin, c'est-à-dire, ils mettent les billets en vente et...
Mais combien tu reverses un handicap à
ça, je voulais la
et le Téléthon, alors quelle expérience ça a été, le Téléthon?
C'est assez fort comme expérience, en fait, parce que j'ai fait des reportages dans les familles et tu reçois quand même. C'est
rendez-vous en terre inconnue.
Non, mais c'est en fait, je trouve, enfin, c'est une émission drôle, mais les pas le Téléthon, je veux dire.
Non, ça, on avait compris.
Si c'est le lieu d'en parler, mais j'ai trouvé que pour le peu que j'en ai vu, j'ai trouvé que les parents des enfants qui avaient ces maladies-là, en fait, ça pousse les gens, une telle épreuve, une telle souffrance pousse les gens dans leur retranchement humain. Et du coup, les gens sont finalement beaucoup plus attentifs à leurs enfants que quelqu'un de lambda où tu dis à ton enfant, allez. Va jouer, enfin voilà. Et là, du coup, les gens sont, même le couple, il est soumis dans une tornade, et les gens, j'ai rencontré quelques personnes que j'ai trouvées admirables dans leur relation humaine avec leurs enfants, dans leur relation humaine de couple, parce que c'est une telle souffrance, c'est une telle épreuve que ça les rend, quelque part, ça les transcende, en fait.
Mais ça t'a permis de vendre plus de billets, quand même, ou pas?
Quelle horreur!
Mais est-ce que tu as déjà refusé des galas ou des soirées ou des ventes de charité, choses comme ça? Ou est-ce que tu fais tout en me disant, je sais pas combien de temps ça va durer, il faut que je fasse tout maintenant?
Ah oui, je refuse pas.
Est-ce que tu te dis, il faut battre le fer tant qu'il est chaud?
Non, c'est
si
pas
tu
non,
vois
c'est...
un peu, si tu vois un peu le, l'idée que je veux dire.
Je refuse plein de choses. D'ailleurs, une fois, j'avais lu un acteur, je sais plus lequel, qui disait qu'un artiste se reconnaissait aux choses auxquelles tu te définis plus par les choses que tu refuses dans une carrière, c'est plus important les choses auxquelles tu dis non que les choses auxquelles tu dis oui, en fait, des fois. Il faut pas se tromper.
Et à quoi vous avez dit non, alors, récemment?
Dans plein de choses. On m'a proposé un film avec Brad Pitt aux États-Unis. On m'a proposé de jouer le rôle de Marion Cotillard, j'ai pas voulu.
La publicité, par exemple, vous en faites beaucoup encore ou pas? Parce que vous en avez fait pas mal à une époque.
Oui, là.
Il y a eu Prince Ciel, il y a eu Weight Witchers.
Ouais.
Jacques Desange.
Non. Alors, on va demander.
L'Oréal.
Ah bah non plus, j'aurais bien aimé être une égérie de L'Oréal. Mais moi et Christine, on n'a aucune chance. Sauf si un jour, ils décident de faire les femmes mûres.
Europe 1 fait Bobino. Anne Roumanoff sera vendredi soir à 20h30, vendredi 7 janvier, avec Nicolas Canteloup, Guy Carlier, Mathieu Madénier, Titoff, Willy Revelli, Jérôme Commandeur, mais aussi les animateurs Marc-Olivier Fogiel, Michel Drucker, Aline Afanoukoé, Wendy Bouchard, Julie Nagui, Faustine Bollard et peut-être Pierre Bénichou, allez savoir, à Bobino, vendredi soir. C'est retransmis sur Europe 1 et sur Europe1.fr. Et autrement, Anne Roumanoff, vous la retrouvez en tournée à travers la France et même la Suisse et la Belgique, toute la francophonie. Vous jouez pas en anglais encore, Anne, hein?
J'ai fait une fois, mais c'était pas très heureux, quoi.
Et pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir une date de tournée d'Anne Roumanoff dans leur ville...
Tu peux faire un truc, tu dirais par exemple « We don't know everything. We are not told everything. Give me a...
On comprend.
Bravo Pierre. Et vous m'avez interrompu alors que j'allais dire qu'il existe, pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir une date de tournée d'Anne Roumanoff dans leur ville, le DVD Anne, naturellement. Anne, vos projets, c'est quoi, à part la scène, la radio, la télévision? Est-ce que du théâtre et du cinéma sont dans vos...
Là, en fait, j'ai écrit une petite série pour la télé, donc je travaille... Ouais.
C'est quoi la petite série pour la télé?
C'est des 26 minutes, je sais pas, mais je veux...
Il y a un rôle pour moi.
Je sais pas. Donc j'ai travaillé là-dessus cette année. En tout cas, déjà à l'écriture, après on verra.
J'avais évidemment d'autres indices, hein, que je n'ai pas donnés. J'aurais bien évidemment eu envie de vous les soumettre. Par exemple, celui-ci aurait peut-être été plus évident. Ne me repousse pas, car sans toi, je ne saurais pas où aller. Balala, ne me repousse pas. La chanson s'appelle Bernadette.
Et alors?
Ah, et ça, vous ne le faites plus, ce personnage de Bernadette?
Ans, celle de l'hôpital?
Non,
la caissière.
Non, Bernadette, c'était mon premier personnage.
Bernadette.
Elle parlait comme ça.
Mais le personnage existe toujours, mais elle n'a plus le même prénom, en fait, c'est ça?
Non, je ne fais plus ça. Je fais juste dans les canulars, des fois.
C'est vrai qu'il y a les canulars téléphoniques qu'on entend. Et j'avais préparé, c'était l'indice numéro 6, évidemment, le générique de l'émission d'Europe 1 chaque samedi. Je suis sur la route souvent le week-end quand je vous entends le samedi, Anne Romanoff, avec toute l'équipe, Willy entre autres, évidemment, Danny Moreau. Et il faut le dire, les canulars qu'on entend parfois et les chansons, les parodies qu'on entend chez Marc-Olivier Fogiel entre 9h et 9h30 sont à l'origine dans l'émission du samedi, on est bien d'accord.
C'est ça.
Voilà,
ouais.
Donc pour ceux qui veulent les entendre avant tout le monde, c'est le samedi à quelle heure sur Europe 1?
De 11h à midi.
De 11h à midi. Merci Anne Romanoff d'avoir été notre invitée d'honneur. J'ai envie de terminer juste avec une réplique qui va évidemment nous rappeler quelques souvenirs communs. Continuez Anne Romanoff, je vous aime bien.
Merci Laurent.
À demain 15h30. À vous Nicolas Demorand.
Bonsoir mon cher Laurent Ruquier, à demain et bonsoir à tous.